Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, pas de Grand Prix, donc forcément, c'est un mag. On va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shinji. Y a pas eu le Grand Prix, c'est dommage, je vais pas pouvoir parler de Kimi Räikkönen. Je suis trop triste.
Nous avons aussi Gus Gus.
Bonsoir à tous.
Lui, Gus Gus, il pourra pas parler tout court. Si. Il pourra pas défendre des idées, avoir des arguments, rien.
Non, surtout si. Pas, il faut pas que...
Mais il devra avoir ses sources.
Ah oui. Et en français, par pitié.
Et Ben, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, t'es à l'heure, comme d'habitude?
Ben, parfaitement, écoute, horloge belge toujours à l'heure.
C'est pas les Suisses, hein, c'est sûr.
Et Dino, j'ai envie de dire, cette semaine, nous ne sommes pas seuls.
Ah non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes au moins 7-8, puisque pour la première fois dans l'histoire du SAV, en 5 ans, pour la première fois, nous enregistrons en live, un live test, on fait un petit essai pour voir si ça vaut le coup, si c'est une expérience qui peut marcher, et après, on essaiera d'étendre un peu de truc. Donc pour moi, c'est réservé à nos auditeurs les plus historiques, les plus réguliers, les plus fanatiques.
C'est une bêta fermée.
Voilà, mais après, il y aura peut-être une bêta ouverte, voire une ouverte.
Oui. Sinon, passez une bonne semaine, c'est la rentrée, même en Belgique. Ou vous êtes déjà rentré en Belgique?
Il fait beau, figure-toi. En fait, chaque fois que je fais un max cet été, il fait beau. Mais en Belgique, en tout cas.
Hein. Il fait beau aussi chez nous.
Non, le seul moment où il a fait vraiment dégueulasse, c'est pendant le Grand Prix.
Oui, c'est vrai.
Bon, un peu plus de pluie, ça aurait pas été plus mal. Hein. On commence un peu à s'endormir, mais le soleil vient en Belgique de temps en temps.
Oui.
C'est une bonne blague, c'est la meilleure de la soirée pour l'instant.
Il s'en va bien en vacances.
Cette année, il est parti que pour le Grand Prix.
Et messieurs, vous le savez, et cette fois-ci c'est exceptionnel, parce qu'on va se taper la honte devant des gens en direct qui vont pouvoir nous huer. Parce qu'on peut le dire, hein, ceux qui nous écoutent en différé, il y a un petit chat, hein, les gens peuvent interagir. Messieurs, c'est l'heure du quiz.
Oh non.
Le service après-vente de l'AF1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors messieurs, cette semaine, qui a préparé une question?
Voilà, ce silence est d'habitude coupé au montage.
Voilà. Oui.
Bon allez les gars, venez-vous.
Donc, il va falloir peut-être d'abord donner quelques règles, genre on ferme le chat,
oui,
et tout.
Oui, alors voilà, évidemment, hein, moi je vais quand même un petit peu suivre le,
oui,
je vais quand même un petit peu suivre le chat des auditeurs, voir s'il y a des gens qui auront trouvé avant vous, voilà. Mais vous, par contre, vous le fermez et vous, d'ailleurs, vous fermez Internet, vous coupez tout, vous éteignez l'ordinateur.
Oui, enfin, bien sûr, tu vas rester tout seul, mon gars.
Comme ça, je serai seul au monde à parler de Kimi Räikkönen.
Tout le monde les mains dans le dos, une main.
Donc messieurs, attention pour ce premier ta gueule live qui durera vraiment 5 minutes. La question est la suivante: qu'est-ce qui devrait passer de 16 à 4 en 2014?
Ça a un rapport avec les moteurs, avec la technique?
Non.
Non. Ça a un rapport avec des personnes?
Non.
Ça a un rapport avec les pneus?
Non. Ils vont passer de 16 à 4. Actuellement, il y a 16 pneus. L'année prochaine, il n'y en aura plus que 4.
Ouais, 4 pour la saison, c'est bien. Tu sais. 4 à l'avant, 4 à l'arrière.
Ça concerne certains Grands Prix en particulier?
Oui.
Il n'y aura plus que 4 Grands Prix chiants.
Non, Bernie est toujours au pouvoir, donc non.
On ne visitera plus que 4 dictatures.
Non.
Ah, c'est les années d'expérience dans le deuxième baquet Red Bull.
On n'est pas très loin, mais non.
C'est un rapport avec ce transfert d'ailleurs?
Non, aucun. Ah, indirectement, ça en a un, mais oui, c'est une fausse piste. Courez. Il y en a sur le chat qui me demande si c'est le nombre de fans de Massa. Non, ce n'est pas le nombre de fans de Massa.
Ah non, ça tombe à zéro logiquement.
Théoriquement, oui. Ah, il y a Räikkönen qui dit mon salaire en millions. Si tu vas chez Ferrari, ça risque d'être l'inverse.
Ça concerne des destinations?
J'étais pas entendu, Shinji.
Ça concerne des destinations?
Non.
On va? Non.
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec la Formule 1?
Oui.
Ben, après un an et demi, n'a toujours pas compris les règles du quiz.
Mais quand tu dis que ça a un rapport, c'est pendant les Grands Prix, c'est pas un truc en marge?
Ça, enfin, c'est un rapport avec la Formule 1. Enfin, c'est un peu marginal, oui. C'est ça, c'est pas un rapport direct avec la F1.
C'est dans le paddock que ça se passe ?
Non.
On en a parlé ces derniers jours ou
Oui.
Oui, c'est récent, non ?
Plutôt.
Ah oui, donc on en a bien parlé ces derniers jours.
C'est le nombre de candidats au bac et Red Bull.
Les journalistes australiens ?
Non. Je crois que c'est vrai qu'ils risquent de diminuer en nombre. Sauf si Ricciardo fout une pâtée à Vettel.
Pardon.
On n'a toujours pas la bonne réponse sur le chat. Hein. Ah, nos auditeurs sont aussi nuls que nos chroniqueurs.
Ça me rassure.
Nous dit celui qui n'était pas sûr de sa question il y a 10 minutes.
Donc je rappelle la question. Qu'est-ce qui devrait passer de 16 à 4 en 2014 ? Je rajoute un petit indice en vous disant qu'en 2013, il n'y en a que 4.
Oh, attends. Cette année, il n'y en a que 4. Oui. Mais l'an prochain, on va quand même passer de 16 à 4.
Voilà.
Mais le 16, il est quand ?
Le 16, il sera au mois d'avril. Enfin, il pourrait être au mois d'avril.
Ah, les cases de moteur Renault ?
Non.
Il pourrait y en avoir 16, mais pour l'instant, il n'y en a que 4.
Il pourrait y en avoir 16, mais pour le moment, il n'y en a que 4.
Et, il y en a
et
que
s'il
4,
y en avait 16 à un moment donné, il y en aurait quand même 4 après. Ça passerait quand même de 16 à 4. C'est obligé.
Vous m'en voulez pas, je vais chercher une aspirine, je reviens.
C'est statistique ?
Alors, c'est... on a quand même des auditeurs qui gueulent parce qu'ils trouvent que vous posez pas cette question.
Eh mais on réfléchit, hein.
Ce n'est pas statistique.
Évidemment, ils sont habitués à la version montée, donc...
Bah oui. C'est pas dans la technique de la voiture.
Non. Ça ne concerne pas non plus le nombre d'essais, ça ne concerne pas le budget de Marussia, ça ne concerne pas...
Et 16, c'est un maximum, en fait. Potentiellement atteignable, en avril, tu dis, mais ça redescendra à 4, quoi qu'il arrive, ce 4, il est sûr, pas comme le 16.
Déjà qu'il y en aura toujours 16. Mais des fois, il y en a 16, des fois, il y en a 4. Je peux vous dire que des fois, il y en a 13.
Ça c'est pas un nombre de voitures.
C'est pas un nombre d'équipes, ni un nombre de voitures.
C'est dans l'organisation du Grand Prix ?
Non. Mais vous, là, vous êtes trop près de la F1.
Ah. Encore nous lancer subtil. Un truc sur un artiste néo-précolombien, là ?
Ah.
Oui, parce qu'il est à la fois nouveau et ancien.
Non, il n'y a aucun rapport avec un artiste néo-précolombien.
Eh bien...
Donc je rappelle la question, qu'est-ce qui passera en 2014 de 16 à 4 ?
Il remplit les blancs.
C'est une unité de mesure ?
Non, pas au sens où tu l'entends. Non.
C'est 16 objets, enfin c'est 4, c'est des objets.
Non.
C'est des bris d'objets ?
Tu ne peux pas les prendre dans les mains.
C'est intangible donc.
C'est tangible.
C'est tangible.
Mais c'est beaucoup plus grand que toi pour que tu puisses le prendre dans ta main.
Mais Superman pourrait le faire par exemple.
C'est des tribunes ?
Super. Alors, la question sur Superman est intéressante. Oui, Superman pourrait le faire. Et ce n'est pas des tribunes.
Ça a un rapport avec un circuit en particulier ?
Oui.
Ah, c'est
attends,
le...
Attends, t'as parlé du mois d'avril.
C'est le renommage du circuit de Barcelone en... De Catalogne, pour exemple. En Barcelone-Catalogne, et donc c'est le nombre de gens dans la région qui sont concernés. Allô ?
Je crois que c'est la pire réponse qu'on ait jamais eue.
Tu sais que tu veux pas mon artiste néo-précolombien là.
Non, c'est pas ça, Gus.
J'étais sûr pourtant.
Ça concerne un circuit en précisément.
Ah oui.
Et la date d'avril, c'est le Grand Prix donc. C'est la date du Grand Prix.
Non. Ça pourrait avoir lieu au mois d'avril, mais c'est purement indicatif.
C'est un des futurs circuits ?
Non.
C'est un des Grands Prix européens ?
Non.
C'est un Grand Prix qui est à venir en 2013 ou pas ?
Non.
Ou alors, comme il est passé, on sait que c'est 4 cette année, que potentiellement il y aura 16 et après il y aura 4.
Oh, c'est tout le temps 4. C'est d'ailleurs pour ça que c'est célèbre.
C'est lié à un circuit du début de l'année ?
Non.
D'accord.
Chers auditeurs, écoutez les chroniqueurs en train de ramer. C'est bon, les
le Grand Prix d'Inde ? C'est lié au Grand
non.
Prix d'Inde ?
Non. Et ce n'est pas global le nombre de spectateurs à Bahreïn. Tout le monde sait très bien qu'ils ne sont pas 16 actuellement.
Est-ce que ça pourrait être lié au Grand Prix de Russie ?
Non.
Le Grand Prix de Corée, c'est juste pour remplir les blancs. Hein.
Bah ouais, voilà.
Non, ça a aucun rapport avec un Grand Prix de cette année.
Mais c'est pas un futur Grand Prix, enfin c'est bizarre.
Est-ce que c'est
parce qu'il est pas confirmé encore?
Il est pas confirmé, puis je pense que tout le monde s'en fout.
Ça concerne le Mexique?
Non.
New York?
Non.
Le Grand Prix de France?
Ah bon, alors encore moins. Il y en a 16, il passera à 4.
Et comment ça peut être 16 si c'est tout le temps 4 aussi? Tu vois, je comprends pas cette question.
Ah, c'est parce que la question est bien pensée. Il y en a 4. Ça fait des années qu'il y en a 4. Voilà. Il y en a eu 13 à un moment donné. Maintenant, il y en a 16. Et l'année prochaine, ça pourrait passer de 16 à 4.
Maintenant, il y en a 16, là, actuellement.
Actuellement, il y en a 16 et il y en a 4.
64, donc. je fais des lettres avec.
Voyelles.
Tout à l'heure, il y avait un bel indice sur le fait que c'était porté par Superman, voilà.
Oui, mais tu nous as dit que c'était pas le truc du New Jersey.
Non, c'est pas le truc du New Jersey.
C'est lié à Austin?
C'est pas lié à Austin, non. C'est lié aux États-Unis. Allez, je vous aide. Ah, Aldra chauffe.
Attends.
Je crois qu'on a un vainqueur parmi les auditeurs qui va pouvoir donner un ta gueule.
Non mais, ce qui est bien, c'est que les autres qui sont sur le chat, ils ont la réponse maintenant. C'est...
Oui.
Ils trouvent plus, oui. Ils cherchent plus.
Enfin, ils ont un indice. Quoi.
Ah.
Mais c'est un fort bel indice.
C'est lié aux États-Unis, mais c'est pas lié aux deux circuits qu'il pourrait y avoir.
Voilà, t'as tout compris.
Mais c'est lié quand même avec la F1, on est d'accord. Hein.
Tout à fait. Se rappelons que nous sommes un podcast sur la F1. Ouais, ou que les gens l'oublieraient, c'est nécessaire.
C'est lié à Montoya, à son éviction?
Non. Mais ça pourrait l'être.
Mais ça l'est pas.
Mais ça l'est pas. Puisque Montoya a été viré de... C'est la Chip Ganassi Racing? C'est la Earnhardt Ganassi. En NASCAR.
Il sait pas ce qu'il fera l'année prochaine. Ça a un rapport avec la NASCAR?
Non.
Est-ce que avec c'est lié au circuit d'Indianapolis?
Oui, c'est lié au circuit d'Indianapolis. On avance.
C'est pas en NASCAR où ils veulent, où il y a un projet de faire la course routière d'Indianapolis sur le tracé
F1
Ah oui, en IndyCar.
Alors je vais quand même l'accorder à Shiji. Bravo Shiji, parce que voilà, c'est bon, NASCAR, IndyCar, c'est un peu pareil.
Oui, bien sûr.
Ça le trouve.
Puisqu'effectivement, il y a un semblant de projet d'organiser sur le circuit d'Indianapolis routier.
Ah, mais
qui a
oui,
été,
mais pourquoi, voilà, c'est ça
qui a été créé pour la F1. Le circuit d'Indianapolis routier. Il y a un projet, peut-être, d'organiser à l'avenir une course d'IndyCar. Rappelons l'IndyCar quand même. La course de la saison, c'est Indianapolis, mais ovale, les 500 miles. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce charmant, sur l'histoire de ce charmant circuit, d'Indianapolis. Pas, la version longue, la version courte, voire très brève, hein, l'histoire du circuit routier qui avait accueilli la Formule 1 de 2000 à 2007. Le dernier vainqueur, vous vous rappelez, messieurs, c'était
Hamilton.
Hamilton, sur une
McLaren Mercedes.
Bravo. Alors,
attends, je t'arrête tout de suite, parce que j'ai toujours pas compris le 4 et le 16.
Il y a combien de virages à Indianapolis?
Aujourd'hui, maintenant, il y en a 16.
Okay.
Voilà. Et l'année prochaine, si jamais il devait y avoir un Grand Prix, d'Indianapolis routier, on passerait de 16 virages à 4 virages dans la même saison. C'est-tu pas beau? Donc, il faut quand même savoir que ce circuit d'Indianapolis, le routier en tout cas, a été construit dans le champ intérieur du mythique anneau de vitesse, qui pour l'anecdote comprenait 4 des 14 trous d'un parcours de golf d'Indianapolis. Petite pensée d'ailleurs à Enzo, qui nous salue. Ce circuit comportait initialement 13 virages et tournait dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que dans le sens inverse de ce qui se fait normalement sur un ovale, puisqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, à peine officialisé le non-retour de la Formule 1 à Indianapolis en 2007, la Dorna, l'organisme de gestion du MotoGP, annonçait quant à elle la tenue d'un Grand Prix moto sur un circuit modifié. Alors concrètement, le circuit routier qui comportait à l'origine 13 virages comporte désormais 16 virages et il escamote notamment le fameux banking qui avait causé problème en 2005 pour les pneumatiques, avec une section assez tortueuse pour ensuite reprendre dans l'ancien routier qui a lui aussi été légèrement modifié, parce que je sais pas si vous vous rappelez la double épingle là, l'espèce de truc horrible qu'il y avait en plein milieu.
Oui, c'est devenu une chicane un peu plus rapide.
Voilà, ça a été un peu adouci et donc ça c'est la nouvelle version de ce circuit routier. qui, mine de rien, commence à faire son petit bonhomme de chemin, puisque la saison dernière, le Grand Am s'invitait à son tour sur le circuit d'Indianapolis, lors du même week-end que le fameux Brickyard 400 de NASCAR, la course la plus... Non, c'est pas la plus longue, oui, c'est la plus longue de la saison, je crois. Non, la plus longue de la saison, c'est le Coca-Cola 600.
NASCAR, c'est le Coca-Cola
600.
Ah. Et à l'époque, comme ils avaient organisé ça le même week-end, plusieurs pilotes de NASCAR s'étaient engagés en Grand Am, parce que c'était une préparation pour la future course de Watkins Glen, qui se déroulait quelques semaines avant la fin du Chase. Donc pour ceux qui connaissent pas la NASCAR, en NASCAR vous avez 26 courses qui se déroulent avec un classement, et au bout des 26 courses, on prend les 10 premiers au classement qu'on qualifie pour une super finale de 10 courses, auxquelles on va rajouter les deux pilotes du top 20, je crois, qui ont gagné le plus de grands prix, oui, et qui, enfin, entre le top 10e et le 20e, qui ont gagné le plus de courses. Donc remporter la course de Watkins Glen pouvait permettre de se qualifier pour le Chase, cette super finale en 10 courses. Et donc beaucoup de pilotes étaient venus, avaient participé lors du même week-end au Brickyard 400 et donc à l'épreuve de Grand Am qui se déroulait sur le circuit routier, afin de retrouver des réflexes de conduite sur routier, parce que bon bah une saison de NASCAR, il y a deux routiers pour 34 ovales, donc c'était plutôt pratique. On a même évoqué à l'époque l'idée d'organiser une troisième course routière sur le circuit d'Indianapolis, notamment en vue de mieux rentabiliser l'épreuve qui, enfin, la course de NASCAR peine à remplir les tribunes. Donc déjà ce super week-end avait pour but de remplir les tribunes.
Tu m'étonnes, 300 000 places. Hein.
Et certains se disaient que en mettant une course, on diminuerait un peu le nombre de tribunes, on pourrait aussi avoir une course totalement différente et attirer un public différent. Donc voilà, ça a été envisagé, je crois que c'est même pas en projet. Mais bon. Par contre, l'IndyCar s'est à son tour intéressé au circuit routier d'Indianapolis, puisque Graham Rahal et la Rahal Letterman Racing va mener des essais mercredi, enfin demain pour nos auditeurs qui nous écoutent en live, aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent mercredi, hier pour ceux qui nous écoutent jeudi et les autres. Vous ferez le calcul. Donc Graham Rahal, qui participe au championnat IndyCar, va participer à des essais afin d'évaluer différentes configurations du circuit routier. Notamment, ils vont faire un test entre la version où on emprunte le banking et la version où on emprunte ce qu'ils appellent le Snake Pit.
Donc c'est pas un mal que Graham Rahal soit tout seul sur la piste, parce que bon, si tu regardes l'IndyCar,
Alors en fait, pour le moment, il s'agit pas véritablement d'organiser une course ou de projeter une course. Dans le communiqué qui a été publié sur le circuit d'Indianapolis, il s'agit avant tout de proposer aux écuries d'IndyCar, dont beaucoup sont localisées dans la région d'Indianapolis, une nouvelle solution pour mener des essais près de leur base, à la fois sur un ovale, mais aussi sur un circuit routier. Bon, évidemment, l'idée d'une course routière fait son petit bonhomme de chemin, et on envisage donc de pouvoir tenir dans les années à venir une épreuve juste avant les 500 matchs d'Indianapolis, dans le cadre d'un grand projet qu'a Indianapolis, qui s'appelle le projet 100, le projet 100 pour les non-anglophones, qui a pour but vraiment de redynamiser, de réorganiser un peu tout ça, de redonner de la festivité aux 500 matchs et de la grandeur. Maintenant, l'idée est pas super populaire pour deux raisons principales. La première, c'est que certains craignent qu'en organisant une deuxième course à Indianapolis, même si c'est sur une version différente du circuit, on retire un petit peu le côté unique et exceptionnel des 500 miles, pendant que d'autres, eux, redoutent carrément que cette course sur routier fasse de l'ombre aux 500 miles, dans la mesure où, ouais, notamment à l'échelle internationale, dans la mesure où les 500 miles se déroulant sur ovale sont avant tout quand même un spectacle pour les Américains ou pour le public nord-américain, là où dans le reste du monde, on est plutôt sur des circuits routiers, et donc une course d'IndyCar sur l'Indianapolis pourrait peut-être être un peu plus international et peut-être être plus vu aux quatre coins du monde. Donc les fans purs et durs de l'IndyCar sont pas forcément chauds. Eux, ils préféraient voir Indianapolis sur un circuit routier, faire une épreuve au mois de septembre, ça les dérangerait pas. Mais là, au mois de mai, c'est un peu gênant. Alors, à noter malgré tout que Graham Rahal ne sera pas le premier pilote IndyCar à rouler sur le circuit routier d'Indianapolis, qui est plus ou moins l'ancien circuit de Formule 1, puisque le regretté Dan Weldon y a participé à des essais en 2011, juste avant de mourir, pour le développement de la voiture qui porte désormais son nom, la DW12, et qui se trouve être l'IndyCar actuel. Voilà. Alors, pour l'anecdote, hein, à l'époque, il s'agissait de tester la voiture sur un circuit routier, on se foutait un peu de savoir quel était le circuit. Là aujourd'hui, Graham Rahal, lui, va devoir tester le circuit avec la DW12. Voilà, donc c'est un peu le retournement de situation. Donc voilà, je voulais faire un peu pour profiter de l'occasion pour refaire un peu l'histoire de ce circuit éphémère et que je pense personne ne regrette,
non, pas
mais qui malgré tout continue à. Je crois que la course de moto marche plutôt pas mal. Les courses sont plutôt sympas. Voilà, donc c'est un circuit qui commence peu à peu à mine de rien à s'imposer sur la scène nord-américaine.
Tant qu'il revient pas chez nous, c'est bon, ils peuvent le garder.
Et donc, félicitations à Aldra qui avait trouvé, qui avait ouvert la voie. Et bravo Shady, tu auras le droit de dire ta gueule. Ouh, Alain, entre nous.
C'était compliqué ton truc quand même. Hein.
Mais non, c'était simple. Alors, comme on parlait tout à l'heure de Montoya, sur le live, il y a un petit début de débat. Puisque l'une des rumeurs des dernières semaines, c'est que Montoya n'écarte pas l'éventualité de revenir en IndyCar. La seule question.
Ah, j'ai eu peur. Qu'il revienne en F1.
La seule question, c'est que si Ricciardo a un problème pour caser ses hanches dans la Red Bull, Montoya, il n'y a pas que les hanches à caser. Donc ça risque d'être compliqué.
Bon, Tony Stewart est bien rentré dans la McLaren d'Hamilton, ça va.
Oui, ça se trouve, Hamilton est gros en fait. On le voit mince parce qu'il est. Il
c'est
est
les photos,
quoi,
mais... et tout, c'est normal.
Hamilton, en vrai, il est retouché. Quand il marche dans la rue, en fait, tu crois voir le vrai Hamilton, mais non. Il y a un mec qui court très très vite et qui retouche Hamilton.
Ah, Dino Aldra pose une question très importante sur le chat. Est-ce qu'il a le droit de kicker quelqu'un du chat?
Non, parce que nous protégeons tous nos auditeurs. Mais il a le droit, s'il veut, il a le droit de dire ta gueule à l'un d'entre nous. On ne l'entendra pas, mais il a le droit.
Allez, très bien, on va passer à l'actualité.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et ces actus, elles vont commencer d'abord par un remerciement. Merci à Red Bull d'avoir annoncé son deuxième baquet un lundi soir pour qu'on puisse en parler dans le SAV. Ça quand même, c'est vachement chouette parce que bien évidemment l'actu principale, celle de lundi soir, c'est donc ce deuxième baquet Red Bull qui sera donc à Daniel Ricciardo en 2014.
Non mais ça on s'en fout, le plus important c'est la news qu'a nous annoncé Alonso.
Non,
c'est le plus important.
On en reparlera.
On aurait pu avoir deux jours énormes.
Ricciardo et Red Bull.
C'est
finalement logique.
Oui, c'est ce vers quoi on tendait depuis les dernières semaines, quoi, depuis les news qui avaient entouré le Grand Prix de Belgique. Parce qu'on sentait que même si dans le management Red Bull on essayait de dire oui, il y a quand même, on est quand même ouvert et à tout, les rumeurs commençaient à tendre vers la signature de Ricciardo et on sentait que les négociations avec Raikkonen avaient été closes et que c'était quasiment terminé en tout cas.
Oui, puis c'est aussi logique historiquement. Par rapport au projet Toro Rosso Red Bull, c'est un peu plus logique. C'est d'ailleurs ce qu'on entend aujourd'hui quand on lit les déclarations. Tout le monde dit c'est la victoire de la filière Red Bull, de cette philosophie qui veut faire promouvoir des jeunes pilotes d'abord par Toro Rosso puis par Red Bull. C'est la première fois qu'on a un équipage complet Red Bull qui est formé dans la maison Red Bull. Et ça c'est souligné par des Liuzzi, je sais plus qui l'autre en a parlé aujourd'hui, des gens de chez Toro Rosso se félicitent en fait de voir un mec de chez Toro Rosso monter, parce que indirectement ça redonne aussi de la valeur à Toro Rosso.
Oui. Ben, non?
Non, mais moi j'allais dire la même chose que Dino, donc voilà, c'est vrai que c'est logique parce que voilà, même avant l'officialisation et au début des premières rumeurs sur Raikkonen, dès que Weber a annoncé son départ, la logique voulait que ce soit quelqu'un de chez Toro Rosso. Parce que c'est vrai que le duo Vettel-Raikkonen, ça faisait rêver, mais en même temps, ça aurait été, on l'avait déjà dit, un désaveu finalement de la filière Red Bull d'une certaine façon. Donc ils étaient un peu pris entre proposer un duo de rêve et éventuellement redonner un peu de grandeur à Vettel qui pour le moment domine la F1 et qui se dirige quand même vers un quatrième titre, qui n'a pas encore gagné, mais bon, il a quand même un petit matelas, on va dire, d'avance. Et donc, c'est vrai que quand tu vois Raikkonen Vettel, ça avait de la gueule. Bah non, c'est clair que c'est logique aussi de faire monter un chez Toro Rosso. Maintenant, pourquoi plus Ricciardo que Vergne, on peut encore en discuter.
Oui.
Mais parce que j'ai regardé sur Autosport, ils ont fait le top 10 des raisons pourquoi Ricciardo a été choisi et pourquoi Red Bull a eu raison.
Il est australien. Il est australien.
Mais la première raison, c'est qu'il est rapide. Bon, ça, c'est clair que, surtout en qualif, il est rapide. Ça, c'est un fait. En tout cas, il est plus rapide que Vergne en qualification. Meilleur en course que ce qu'on ne croit. Ça, on demande encore à voir.
Ah, déjà, tu remarqueras, voilà, c'est meilleur en course que ce qu'on ne croit. Donc, ah oui, c'est déjà supposé que déjà en course, c'est déjà un peu moins bien.
Parce que j'ai vu une partie de l'interview de Christian Horner qui parle de la Belgique où il fait une superbe remontée pour justifier, entre autres, le choix de Ricciardo. Mais en même temps, Vergne, des remontées, ça fait depuis le début de l'année qu'il en fait. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, ok. L'écurie Red Bull, voilà, il fait partie de la filière Red Bull, ça c'est logique. Les ingénieurs l'adorent, bah, c'est vrai qu'il a une très très bonne réputation, ça, il a la réputation d'être vraiment un type très sympa, toujours saluer tout le monde, il va parfois même remercier les gens en cuisine quand il a mangé chez Red Bull sur les Grands Prix, enfin c'est quelqu'un qui est apparemment très très apprécié, que ce soit par tous les gens qui bossent chez Red Bull.
Et c'est vrai que s'il y a peut-être un point qui a peut-être pu faire la différence, c'est aussi sur le caractère. L'association Ricciardo-Vettel me semble moins houleuse que n'aurait pu l'être l'association Vergne-Vettel. Je pense que le caractère de Vergne, on le voit d'ailleurs ces dernières semaines, son petit côté à gueuler quand ça commence à pas lui plaire, aurait peut-être fait tâche face à un Vettel et aurait peut-être encombré un peu l'image d'une équipe qui veut... C'était un peu s'exposer à vraiment avoir le vrai peut-être successeur de Weber dans le baquet de la Red Bull. Il y a un mec qui n'aurait pas hésité en cas de numéro 2 de dire oh, « je suis un numéro 2 ».
Ouais bah ouais, c'est vrai que Vergne il a un peu le côté râleur parisien quoi. On peut caricaturer mais.
On salue nos amis parisiens qui nous écoutent.
Voilà.
Déjà, faut savoir que pour un Belge en parisien c'est la France. C'est voilà.
Déjà qu'une Belge a été dire sur Canal qu'elle n'aimait pas la France. On continue.
On va raser ce pays, tu vois. Bah, voilà. François Hollande, si tu nous écoutes, renonce à la Syrie, attaque la Belgique.
Ah, il va pas attaquer un pays dirigé par un socialiste. Réfléchis un peu.
Ah et merde. Ah zut.
Alors dans les autres arguments, redevenons un peu sérieux. Il y a le fait qu'il apprend vite. De toute façon, il va atterrir à vite s'acclimater.
Ah bah là, oui.
Plus ils estiment qu'à partir de la mi-saison prochaine, il va devoir pousser Vettel. Ça lui laisse quand même pas beaucoup de temps. Donc apprendre vite et être vite à l'aise, il atterre à l'aide. De toute façon, Red Bull, triple champion du monde, peut-être 4, il aura une pression sur les épaules, indéniablement. Il a battu Jean-Éric Vergne. Alors là, je suis un peu plus sceptique. Si on regarde les classements au championnat l'an passé, c'était pas le cas.
Ah, mais si on prend les qualifs, oui.
Si on compte les qualifs, oui. Et cette année, après Spa, j'ai pas fait le point, mais je pense que c'est serré. Donc,
alors, en fait, ce top 10, c'est de la merde.
Les autres avantages.
C'est un peu des grosses conneries, en fait.
Ah ouais, non, mais en fait, t'as l'impression, quand tu lis le truc, c'est pourquoi ils ont choisi un pilote Toro Rosso ou le Raikkonen, en fait. Parce que finalement, les justifications sont presque identiques pour Vergne. Parce que les dernières, c'est qu'il est moins cher que Raikkonen, bah oui, Vergne aussi.
Oui.
Qu'il est très bon en relation presse, bah ça, c'est vrai qu'il a à nouveau rejoint son caractère. Et puis ensuite, qu'il est prêt, bah ça, c'est très subjectif. On le saura.
J'adore l'argument, il est prêt.
On le saura à la mi-saison l'an prochain, hein, puisque c'est là qu'il va
performer. Il est prêt de quoi?
Performer.
Il est prêt de la coque.
Très prêt. Il est trop prêt de la coque.
Il a des hanches de femme. Il a des hanches larges.
Il va peut-être être enceinte hein, bientôt.
Ça sera peut-être la première femme championne du monde.
Et donc, Vergne...
des choses. Ceci dit, Vergne aurait été dans la même situation. Hein, parce qu'on l'a déjà dit, en ce qui me concerne, déjà dit, entre les deux pilotes Toro Rosso, il n'y en a pas vraiment un qui sort véritablement plus que l'autre du lot. Quoi. Même si, quitte à miser sur un potentiel, ce qui ressort un peu de l'interview d'Horner de nouveau, j'aurais peut-être plus misé sur Vergne. Enfin, ça, c'est très personnel. Qui, je pense, a plus de potentiel. Maintenant, dans l'absolu, je pense qu'effectivement, Ricciardo est peut-être un peu plus mûr pour franchir l'étape supérieure. Et puis,
Ajoutons quand même que dans la foulée, Vergne a été confirmé chez Toro Rosso pour
chez
l'année
Toro
prochaine.
Rosso. Il va faire 3 ans chez Toro Rosso. Ça, hein,
pour... c'est peut-être aussi un moyen aussi derrière de se dire si Ricciardo n'apporte pas les résultats qu'on veut, pour 2015, on a peut-être l'alternative de virer Ricciardo et d'essayer Vergne.
Oui, parce que
en tout cas, de garder un pilote prêt au cas où, quoi. Pas faire l'erreur qu'ils ont fait en virant Alguersuari et Buemi, ce qui faisait qu'en cas de Weber, ils n'avaient pas de solution à part mettre l'un des dominos. Là, au moins, ils pourront se dire, bon, bah, si jamais Ricciardo fait pas le taf, on a une solution de recours.
Oui, puis je pense que la Toro Rosso sera quand même pas mauvaise l'an prochain. Enfin, ils ont des clés, pour que ce soit raisonnable. Ils ont le moteur Renault, ils ont James Key, ils ont des pions qui font qu'on peut espérer.
Puis ils ont un nouveau ils ont un nouveau designer, Adrien Neuf. C'est Adrien Neuf.
Non, j'ai pas le droit de faire un four.
Continue, Dino, continue.
Tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu vois, comme t'es en live, tu peux plus dire oui, je vais couper. Non, faut que tu fasses gaffe à tes blagues maintenant.
C'est une idée à la con.
Oui, et puis la vraie blague, c'était Adrien Neuf, ouais. Ouais.
Ah ouais, neuf. Ouais. Ah.
Pas solidaire. Oh,
je la refais. On la comprend au montage.
En disant que chez Toro Rosso, a priori, ça devrait être Félix Da Costa, par contre, qui va remplacer Ricciardo.
C'est pas si facile que ça.
On parle tu penses que Senn
Jr. Il y avait le bruit.
Nasser, Senn Jr. Le...
Après,
les choix sont pas.
Vous pensez que c'est pas sûr pour Da Costa, donc.
Bah de toute façon déjà ils ont dit qu'ils allaient prendre leur temps, il y a Da Costa, il y a aussi Kwiat, il a un nom bizarre, enfin il faut pas qu'il vienne en Formule 1 ce garçon, parce qu'on peut pas prononcer son nom. Déjà Ricciardo on a eu du mal à s'habituer, mais Kwiat on y arrive pas. Et sinon ouais, il y a la piste Nasser, parce qu'il y a aussi une question derrière, c'est Toro Rosso mine de rien a quand même besoin d'argent, fait partie de ces équipes qui ont quand même besoin d'argent, même avec le soutien de Red Bull, et que effectivement un pilote du type Nasser qui serait poussé un peu par Bernie Ecclestone, c'est pas un pilote payant, c'est un pilote qui quoi qu'il arrive va sans doute arriver en Formule 1 dans les années à venir, mais c'est un pilote qui peut-être adoucir Bernie Ecclestone dans certains contrats, parce que visiblement Bernie Ecclestone trouve qu'il y a pas assez de Brésiliens pour représenter la F1 au Brésil.
Alors, en plus, ils vont perdre Massa, c'est quand même trop.
Donc, en parlant de Massa, hein, et des rouges, il y a cette rumeur qui existe depuis plusieurs semaines, mais qui a repris du poil de la bête, c'est Kimi qui pourrait revenir chez les rouges. Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est réaliste?
Moi, j'y crois pas. Honnêtement, enfin, j'y crois. J'imagine pas, déjà, Ferrari, historiquement, on n'a jamais eu deux pilotes de premier plan. En plus, Alonso, la seule fois où il a eu un pilote de son calibre, c'était chez McLaren avec Hamilton. Je pense pas qu'il en garde des bons souvenirs. Donc, Raikkonen chez Ferrari, oui, mais faudrait qu'Alonso parte. Et je pense pas qu'Alonso partira. Donc,
il va peut-être faire du vélo.
On y a cru hier, hein, mais mais je pense pas. Enfin, ce serait quand même une grosse surprise.
Et puis, il faut dire que les managers un des managers, Steve Robertson, a déclaré à Autosport que les clés du futur Raikkonen étaient dans les mains de Lotus, qu'il manquait juste des garanties sur des garanties financières, oui, mais aussi technologiques sur ce que prévoit de faire Lotus pour l'année prochaine. On sait qu'ils ont récemment introduit. Ils ont récemment introduit un simulateur où le pilote avait son mot à dire, quoi, où le pilote pilotait vraiment la voiture. Et donc il manque plus que ça pour que Raikkonen re-signe chez Lotus plutôt qu'ailleurs, quoi.
Moi, je me tais sur Raikkonen. Moi, je dis plus rien.
Monsieur.
J'ai envie de dire qu'il va se faire défoncer par Alonso, mais je le dirai pas.
Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et tu sais quoi? Ta gueule.
Oh non.
Voilà. C'était la phrase de trop. Messieurs, on va passer à l'actu suivante. Et peut-être aussi un retour en 2014, mais là, cette fois-ci, c'est les pneus. C'est l'affaire qui a enflammé un peu aussi le Grand Prix de Belgique. Est-ce que Michelin...
Greenpeace.
Non, pas Greenpeace. Michelin. Est-ce que Michelin va revenir? Oui.
Ils sont verts et tout?
Alors, en tout cas, je crois qu'ils mettent green dans leur nom de pneus. Donc, s'il y a green, c'est qu'ils doivent être écolo.
Oui.
Ouais, mais est-ce qu'ils sont pour ou contre la guerre en Syrie? Savoir s'ils sont peace aussi.
Je ne sais pas. En tout cas, donc Michelin qui... Parce que bon, on en a parlé parce qu'en plus, il y avait le rallye d'Allemagne à Trèves, pas très loin.
Ouais.
Eux, visiblement, ils sont intéressés.
Ils ont dit... Ils sont prêts apparemment à être là en 2014. C'est ça qui est très étonnant.
Ils ont dit qu'ils veulent une réponse avant fin octobre, par contre. Hein.
Parce que l'intérêt, il me semble que l'intérêt, il était déjà... on l'a déjà cité une fois ou deux, avant. Mais c'est vrai que là, maintenant, se dire qu'il serait prêt, c'est quand même... Les délais sont courts, quoi. Ça veut dire qu'il bosse déjà... je sais pas. Je veux dire que sur Spa, les Anglais sont très vite affolés sur l'affaire. J'avais des doutes et au fil du week-end, les infos sont un peu recoupées, comme quoi il y avait effectivement un réel intérêt qui pourrait être prêt pour 2014. Donc, ce qui fait très plaisir à Pirelli, hein.
Ah oui.
Ils sont ravis. Mais bon.
En tout cas, pour Bernie, il n'y a même pas à se poser de questions. Hein. Lui, il dit, Pirelli a un contrat avec la FOM, a des contrats avec les équipes, la FIA n'a pas son mot à dire.
Mais justement, si, c'est le seul contrat qui compte véritablement.
Et, oui.
C'est la responsable presse de chez Pirelli qui nous l'expliquait, c'est que le seul truc qui manque, c'est le plus important, c'est le contrat avec la FIA.
Oui, c'est donc, bien la preuve. C'est justement pour ça qu'on ne sait pas trop, parce que justement, il n'y a pas cette confirmation officielle.
Ouais, et ils attendent toujours ça. Sinon, effectivement, ils ont un accord avec les équipes avec 10 sur les 11. Pour 2014, avec les tarifs identiques à ceux pratiqués jusqu'à présent, donc pas d'augmentation. Je pense qu'il y avait une info comme quoi il y avait une possible augmentation pour l'an prochain, c'est pas le cas, les prix sont les mêmes. Les pneus, ben, il y aura sûrement des modifications, mais bon, globalement, je pense que les équipes connaissent les pneus qu'ils auront pour 2014. Si on part avec Michelin, on va repartir sur des pneus totalement différents. Je pense que la politique de Michelin est pas la même que Pirelli. Ils veulent pas avoir des pneus qui, après 5 tours, on commence à rouler sur des œufs. Donc avec tous les changements qu'il va déjà y avoir, je pense pas que ce soit quelque chose qui serait bien vu par les équipes.
Bah je crois que parce que Bernie a dit que ils avaient le soutien de toutes les équipes. Bon, on ne les entend pas. Je crois qu'il y a que Boulier qui a vraiment dit que lui il préférait que ce soit Pirelli, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses qui changent l'an prochain que ça serait bien qu'au moins les pneus ça ne change pas.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Bah non, et puis il y a aucune assurance que
non, vas-y,
que Michelin en arrivant fasse mieux d'emblée que Pirelli. Pirelli, même trois ans après leur... Oui, ils font peut-être pareil, surtout qu'on l'a répété assez de fois dans l'émission, les conditions en ce moment sont... Bon, maintenant, ça a changé parce qu'on peut changer les pneus en cours de saison s'il y a de problèmes. Mais, mais ça ne n'assure en tout cas pas aux manufacturiers de 2014 de faire assez d'essais pour tester correctement leurs pneumatiques. On est toujours au même problème à ce niveau que les pneus sont testés pour la première fois en fin de saison, voire même en tout début de saison, et que ma fenêtre de tir est un peu courte pour modifier une éventuelle erreur que Michelin n'est pas à l'abri de commettre.
Moi, j'imagine bien la FIA que la FIA ait été voir Michelin pour leur demander s'ils n'étaient pas prêts éventuellement à venir en 2014, parce que je pense qu'ils ont quand même pas trop apprécié les essais de secret de Mercedes. Donc, s'ils pouvaient avoir un nouveau manufacturier, ça pourrait pas les déranger, à mon avis. Mais bon, j'extrapole peut-être. Hein.
Donc, pour vous, le manufacturier 2014, ça sera Pirelli.
Oui, parce qu'en plus, en tout cas, il y aura Pirelli et je pense pas qu'il y ait deux manufacturiers l'année prochaine parce que
non, je pense pas ça.
Bon,
je
pense aussi. Il peut y avoir une surprise et une arrivée de Michelin, mais pas les deux en même temps.
Non, les deux en même temps, non. Enfin, je pense que Bernie l'a dit lui-même qu'il n'en voulait pas, mais enfin bon, la déclaration de Bernie, il y a à prendre et à laisser. Puis moi personnellement, la guerre des pneus. Je trouve que l'option d'avoir les mêmes pneus pour tout le monde, c'est bien. Même si, évidemment, il y a des équipes qui s'en sortent mieux que d'autres avec les pneumatiques, ça, c'est un fait. Mais si, voilà, le pneu est quand même l'élément important des performances. Et si tu vas sur un circuit où, en fonction des températures, t'as juste une voiture qui marche mieux uniquement, vraiment parce qu'elle a les bons pneus, la bonne marque de pneus, moi, j'ai pas gardé un grand souvenir de cette période-là. Donc, un manufacturier unique, moi, c'est ce que je trouve ça mieux. Mais dans cette optique-là, je pense que Pirelli reste quand même le mieux placé. Je pense que c'est le mieux préparé pour 2014.
Tiens, Destino sur le chat demande... oui, Michelin ne voulait-il pas que l'on change la taille des pneus? Alors, c'est une de leurs propositions s'ils reviennent, mais ça ne se ferait pas tout de suite.
Genre, non, ils seraient prêts à attendre deux ans pour ça.
Voilà, 2016 au moins. Pour en
effet... Ils veulent un rapprochement entre les pneus F1 et les pneus d'endurance, je crois.
Oui, ils veulent qu'on les monte sur des jantes de 18 pouces, en fait. C'est pas la taille du pneu, enfin, c'est pas la taille extérieure du pneu qui est concernée, mais c'est la taille de la jante et donc la taille de la lèvre qui vient se coller sur la jante.
Mmh. Tiens, est-ce que tu peux citer ta source, s'il te plaît?
On a aussi une question sur le chat. Est-ce que le fait que Michelin ait déjà équipé la F1 récemment peut les aider à faire des pneus corrects rapidement? Ils sont partis quand même, il n'y a pas si longtemps que ça.
De toute façon, Michelin,
avant que Michelin... Vas-y,
alors,
vas-y.
Juste donner une réponse plus complète sûrement. Je pense que de toute façon, ils ont une expérience en sport auto. Donc c'est pas des manches. Chez Michelin, ils ont une expérience, une expertise. Donc forcément, ils vont pas arriver complètement dans le gaz. Non, je pense qu'il y a quand même, il y a sûrement des choses qui ont changé. La taille des pneus, mais enfin bon. Voilà, parce qu'ils seront pas complètement perdus. Maintenant, il y a sûrement des détails sur lesquels ils vont peut-être.
Mais surtout, c'est la dernière fois ils étaient là en guerre des pneus. C'est pas du tout les mêmes compétences qu'on demande à un manufacturier en guerre des pneus qu'à un manufacturier unique. Un manufacturier en guerre des pneus, il doit chercher les derniers dixièmes, il doit aller explorer les technologies les plus à la pointe. Alors que là, on voit très bien qu'un manufacturier qui a un monopole peut se permettre de faire des pneus sûrs. Il n'a pas à pousser en fait très fort quoi. Il design un produit dont il connaît bien les caractéristiques et voilà, ça demande pas de grosses ressources en termes de recherche quoi. Ils peuvent te faire un pneu moyen que tout le monde s'en fout quoi. Enfin, c'est le même pour tout le monde.
Ouais, puis les seules modifications réelles par rapport à leur retrait, c'est il y a plus de rainures et puis les pneus avant sont plus étroits global pour les grosses différences par rapport à ce qu'ils ont connu la dernière fois qu'ils étaient en F1.
Dino, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que oui,
après 7 minutes, oui, tu me dis, plus tout à l'heure, je boue! Alors, je reprends dans l'ordre. Sur Michelin, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, Michelin communique un petit peu autour de leur arrivée l'année prochaine. Soyons logiques. Certes, il y a le contrat le plus important, c'est le contrat de la FIA. C'est celui qui compte le plus. Maintenant, le vrai contrat le plus important, c'est celui avec la FOM, qui fait que, quoi qu'il arrive, que Pirelli soit manufacturier ou pas, il y aura des grands panneaux Pirelli sur la plupart des grands prix de l'année prochaine. Donc, que Michelin le veuille ou non, je vois mal Michelin dire ouais, on équipe les pneus et en même temps on laisse Pirelli sponsoriser la Formule 1. C'est juste impensable. Donc, je pense aujourd'hui que Michelin, à la fois il faut un peu de communication autour de nous, il se rappelle au bon souvenir de la F1, il joue aussi sur le fait sur l'opposition avec Pirelli, comme les pneus Pirelli sont critiqués. Bah, aujourd'hui, c'est le seul manufacturier dont on parle en dehors de Pirelli sur la Formule 1. Donc, en termes de communication, c'est dire, voyez, si jamais les pneus Pirelli sont trop mauvais, vous savez que vous pouvez compter sur nous. Nous, on fait des bons pneus, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense que en l'état, c'est vraiment de la communication, que Michelin n'envisage pas du tout de revenir l'année prochaine, que par contre, peut-être à plus long terme, il vise peut-être d'inciter la FIA à avoir un contrat plus court ou je sais pas quoi, il vise peut-être d'être le manufacturier en 2015, 2016, 2017, mais pas en 2014. Techniquement, ça pourrait être possible. Michelin sait faire des pneus, comme l'a dit Gus Gus, même des mauvais pneus, on verra pas forcément la différence. Moi, je reste convaincu que les Pirelli sont d'excellents pneus par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Cette année, ils sont allés trop loin, mais les deux premières années, ils avaient d'excellents pneus. Ça n'a pas empêché qu'on a dit que c'était des pneus, enfin que des gens disaient que c'était des pneus merde. Donc là, ça se trouve, ils feront des mauvais pneus l'année prochaine, Michelin, et tout le monde dira c'est des super pneus. Donc voilà. Bon, moi, vraiment, j'y crois pas. Je pense qu'ils se font un peu de com. Et ça mange pas de pain.
On va rester autour de la roue, mais on va pas parler du pneu, on va parler des attaches. Hein, suite à l'incident hein, qu'il y avait eu avec ce malheureux... C'était le caméraman, hein, oui, je n'oublie pas, c'était le caméraman qui était blessé. Les pneus seront mieux attachés avec un système, puisque au lieu d'interdire les gens sur la piste, on va tout simplement essayer d'éviter que la roue se barre, ce qui est déjà plus efficace.
Ah oui, mais ils ont cherché longtemps hein, pour arriver à ça. Non, mais...
il faut aussi dire, on leur a quand même donné un calendrier, c'est-à-dire que c'est une solution dont on a appris, mais qui a déjà été testée en Belgique,
oui.
Qui sera par certaines équipes, je crois que McLaren l'a testée.
Parce qu'elle est entérinée.
Voilà, mais sinon, c'est un groupe de travail qui s'était réuni, le temps après qu'on mette en place les dispositions et qu'on envisage des systèmes. Voilà, je trouve que la FIA a réagi plutôt vite. On rappelle quand même qu'il y a un système qui fait que quand la roue est bien mise, il y a sur le pignon de la roue, il y a des petits loquets qui se dégagent quand la roue est engagée et qui bloquent la roue. Ce qui fait que la roue est bloquée, elle est fixée, elle pourra pas partir. Maintenant, le problème qui se passe dans les stands, c'est que justement, quand la roue n'est pas bien fixée et que les loquets ne se sont pas activés, la roue peut partir comme elle veut. Donc là, j'ai aucun détail sur comment ils vont faire, mais l'idée, c'est un système qui, même quand la roue est pas attachée, elle est quand même tu as fait. Moi, c'est, je suis
oui,
curieux
on
de voir.
On en sait pas plus, oui.
Comment ça va c'est ça qui est terrible, c'est que on sait qu'ils doivent changer, on sait qu'ils ont déjà essayé des trucs. Maintenant, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne et on s'en trouve même confronté à la question de se dire, mais
est-ce
pourquoi
que
ils n'ont pas pensé avant, quoi. Parce que c'est quand même pas la première roue qui se barre. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé au Grand Prix de Hongrie 2011, je crois, où il y a une roue de la Mercedes de Nico Rosberg qui se barre et qui fait quasiment presque pareil sans toucher personne. Pourquoi est-ce qu'il faut encore attendre qu'il y ait quelqu'un de blessé et qu'en termes d'image ça soit mauvais pour la Formule 1 pour qu'on se décide enfin à mettre en place un groupe de travail, à réfléchir à une solution qui, on le voit, en 2 mois peut être mise en place.
Ouais. Surtout que ça date pas non plus de la 2011, les problèmes. Enfin, on s'en souvient assez peu parce qu'il y a eu d'autres événements lors de cette course, mais Monza, Imola 94, pareil, il y a des blessés dans les stands à cause d'une roue, d'une Minardi, je crois, qui était partie. Enfin, voilà, ça fait, c'est pas un problème qui vient de, qui a toujours 2 ans, quoi, et c'est, ça fait 20, ça, peut-être même sûrement depuis le début de la F1 qu'il y a des problèmes avec les roues mal attachées, quoi.
Sinon, Ben, toi qui étais au Grand Prix de Belgique, est-ce que tu as pu voir si les caméramans n'étaient pas de nouveau réautorisés? Parce que là, justement, on a Oasis et Adelin qui ont remarqué que les angles de vue étaient redevenus normaux. Alors que normalement, vous savez, tout ce beau monde devait être sur le bord et ne plus interagir au milieu, en fait, des stands.
Alors, pour tout dire, Spa-Francorchamps est peut-être le plus beau circuit du monde, mais la salle de presse est sans doute une des plus moches. C'est-à-dire qu'une fois que t'es dans la salle de presse, tu n'as vu sur rien.
Rien.
À part sur le dessus du paddock. Donc, j'ai absolument pas eu de vue sur les stands.
Bah, c'est la Belgique, c'est beau de loin, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas beau.
Ouais, non, la salle de presse, t'as vraiment vu sur rien, c'est une catastrophe. Donc j'ai pas vraiment eu de vue sur les stands et pour tout dire j'ai pas été pendant le Grand Prix me promener. De toute façon c'est des zones tribunes devant donc j'aurais rien vu. Donc j'ai absolument aucune idée de aussi les caméramans là, à nouveau. Oui,
Au niveau des caméramans je crois qu'ils avaient pas interdit, ils avaient restreint les équipes.
Oui mais normalement les caméramans doivent être juste sur le bord en fait.
Et même sur certains points, enfin on a eu quand même l'image de. Alors je crois que d'ailleurs Montagny était. On l'a pas beaucoup vu. Je me demande si c'est pas pour ça parce qu'il avait honte avec son petit gilet, le petit gilet FIA oui. de sécurité. C'est vrai que enfin pour avoir été à des essais c'est obligatoire. Enfin le gilet de sécurité il est obligatoire. Maintenant, je pense que dans le cadre des Grands Prix, comme c'est pas très télégénique, il y avait eu aussi une petite pression de la part des équipes pour faire un peu avec les règles. Là, c'est peut-être un rappel des règles et qu'on a dit d'accord, ok, vous voulez revenir dans les stands, on autorise une équipe. Je crois qu'il y avait une équipe, un caméraman, un journaliste autorisé par télévision ou un truc dans le genre. Mais vous portez les gilets. On a rappelé les règles de sécurité qui existaient déjà et sur lesquelles on s'était peut-être un peu assise au cours des années.
Ok.
Après, faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi les images, enfin que la course est réalisée par la FOM, que entre temps, ils ont peut-être aussi eu le temps de développer des nouveaux systèmes avec des paluches ou je sais pas quoi pour placer des caméras.
Oui.
Ils ont aussi eu le temps de réfléchir parce que mine de rien, il a fallu réagir un peu dans l'urgence. N'oublions pas que pour la FOM aussi, le matériel part avec quelques grands prix d'avance, donc on peut très bien penser que en Hongrie, ils étaient pas prêts à vraiment assurer un même niveau de qualité de transmission, mais que là en Belgique ils étaient un peu plus prêts, peut-être que le paddock de la Belgique s'y prêtait aussi davantage, voilà.
Et enfin côté actu, bien après les transferts, on va parler des circuits. Et là aussi on a eu quand même quelques nouvelles ces dernières semaines.
Bien j'y pense, les transferts, on a pas fait de tirage au sort cette année. Il faudrait qu'on fasse un tirage au sort des transferts. Moi je connais les équipes 2014. J'ai pas de papier, mais si quelqu'un a des papiers dans l'assistance,
il y a plus à charter, c'est dommage.
C'est dommage.
Ah, ouais. On va bien trouver une équipe. Ah bah, il y a la SAV F1 Team.
On en met deux en GP2.
Non, mais il y a la SAV F1 Team.
Oui.
Je veux savoir quel pilote tu auras.
Donc, côté circuit, il y a déjà le. Normalement, c'est Bernie qui l'a annoncé, donc là, par contre, sur ce coup-là, c'est que ça devrait être vrai. Le probable deuxième report du Grand Prix du New Jersey ou Grand Prix des Amériques, enfin, vous savez, le Grand Prix qui est à New York, mais qui est pas à New York, en fait.
Toi, tu donnes du crédit à ce que dit Bernie maintenant.
Bah, quand c'est les trucs commerciaux et que ça concerne les circuits, un peu quand même.
C'est quand même pas la première fois que Bernie et Costone nous disent ça va pas avoir lieu, j'y crois pas. Enfin, rappelle-toi le Grand Prix des États-Unis à Austin.
Oui.
Je crois que c'est seulement sur le circuit qu'il a dit, ouais, en fait, il va avoir lieu. Mais je pense que sincèrement, il y a une question de gros sous. Ce qui peut être mauvais derrière, par contre, c'est que Léo Hindery Jr. d'ailleurs, l'organisation du Grand Prix des Amériques à New York, enfin dans le New Jersey, a déclaré, enfin ils ont déclaré dans un communiqué, que après le dévoilement du calendrier par la FIA, il y aurait une annonce. Donc on peut très facilement traduire ça, de se dire après ça, qu'est-ce qu'ils peuvent annoncer? Oui. S'ils sont au calendrier, je vois pas ce qu'ils vont annoncer, en tout cas qu'ils méritent d'être autant anticipés. S'ils sont pas au calendrier, c'est peut-être qu'ils annoncent tout simplement que le Grand Prix ne se fera jamais. Je crains malheureusement que ce soit la deuxième hypothèse.
S'il y a un deuxième report, je suis d'accord avec toi, hein. Deux reports, c'est jamais.
Ouais, non, mais eux, de leur côté, c'est les déclarations, c'est si on est toujours dans les temps, on prépare toujours, et on fera effectivement une déclaration après la divulgation du calendrier, ce qui est effectivement un peu étrange. Enfin, pour revenir sur les déclarations de Bernie, c'est vrai qu'il faut pas forcément toujours croire ce qu'il raconte. En Allemagne, il déclarait à une publication, je crois que c'est une publication allemande d'ailleurs, qu'il allait faire un Grand Prix en Azerbaïdjan, donc...
Ah, le rêve. Ah.
Non, c'est parce qu'il est radin, il voulait faire un Grand Prix à Bakou.
Un peu, voilà, il y a un peu de tout.
Aldra, Aldra, t'as le droit. Voyons.
Je ne reconnais pas l'autorité des auditeurs.
Sinon, côté contrat, il y a Suzuka qui a été prolongé. Ça fait toujours plaisir.
Il y avait un doute.
Je crois pas, non.
Enfin, tu me diras, oui, ils ont quand même osé à un moment donné dire non, on va plus aller à Suzuka, on va aller à Fuji.
Fuji.
Puis après, arrivé à Fuji, ils ont dit non, on va pas aller à Fuji. Oh.
Surtout quand Honda revient, quoi.
Oui.
Apparemment, Melbourne est toujours en négociation. Ça, apparemment, ouais, ils veulent la F1, mais ils veulent que ça leur coûte moins cher.
C'est tout le temps pareil. Enfin, Melbourne, c'est quasiment le feuilleton chaque année. Chaque année, on se demande si Melbourne sera là l'année prochaine.
Et chaque année, ils rajoutent des tribunes, bizarrement.
Oui. Ah, c'est pas aussi, on va en rajouter, apparemment. Au réunion. En fait, ils vont garder celles qu'ils ont, mais ils vont les laisser toute l'année.
Ils veulent voir Lewis quand il se voit. Ah, il a mal négocié le rouge.
Sinon, un circuit qui est déjà mort, on peut le dire, c'est celui de Valence. Mais eux, c'est plutôt une question de contrat plus que de Grand Prix, parce que bon, un Grand Prix à Valence, a priori, on ne le reverra pas. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours un contrat.
Ouais.
C'est dommage.
C'est dommage.
Ça se résilie, les contrats.
Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont un contrat. Ils veulent plus du contrat.
Oui.
Mais apparemment, ça bloque.
C'est... Là encore une fois, le problème c'est qu'il doit y avoir sans doute un dédit ou un truc dans le genre.
C'est ça.
C'est surtout ça le problème.
Bernie dit ah non les gars, nous on tient trop à avoir Valence au calendrier. Vous êtes engagés. Moi je suis prêt à retirer Monaco pour faire de la place. Bah vous savez quoi, ce Grand Prix me manque.
Bon.
Pas le circuit en lui-même, mais voilà, je trouve que je m'étais habitué à cette petite étape en Méditerranée. Le circuit n'était pas magnifique, mais bon, voilà.
Oui, il n'y avait pas grand-chose à dire, pas beaucoup d'émissions à préparer. On pourrait prendre notre week-end, quoi.
Mais non, mais pour ça, on a le live, maintenant. c'est vrai, je me suis fait la réflexion cette semaine, je me suis dit, tiens, ouais, c'est une petite... Ça sentait l'été. Quand t'avais Valence, tu disais, ah, l'été arrive. Tu voyais des filles en petite tenue, et... voilà, c'était
la plage,
sympa. Et là, que dalle, quoi. Enfin là, ouais, Silverstone. Ah ouais, ah bah tu voyais des vaches, de la boue,
Bernie Ecclestone. Ah ouais, c'est pas la même chose, c'est vrai.
Pas le kilt, hein. Un petit coup de vent, c'est l'été. Hein.
Et allez, question circuit, il y a eu la dernière rumeur. Dans 11 mois, oui, dans 11 mois, il y aura un Grand Prix du Mexique. Peut-être. Et surtout si Carlos Slim met beaucoup d'argent. Parce que faut le rénover, le circuit. Hein.
Dans 11 mois ou dans 13, parce que j'ai lu que ce serait groupé avec Austin.
Ouais.
Ah oui.
Ce sera même l'avant-dernière course de la saison, juste avant le Brésil.
Ouais.
Ouais, parce que
mais
ça,
moi j'ai du mal à y croire quand même. Je lisais dans F1 Racing, parce que j'ai acheté F1 Racing. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je lisais dans F1 Racing un très bon reportage qui a été fait au Mexique sur Sergio Pérez. Et où le mec disait, voilà, ils sont allés sur le circuit Hernando Rodriguez, enfin voilà, le circuit de Mexico. Enfin, visiblement, l'état du circuit pour la F1, il est pas du tout aux normes. Enfin, d'ici à ce qu'ils remettent ça en état pour dans quasiment un an. Bon, c'est quand même un gros challenge, quoi.
Et c'est un circuit très très bosselé, en plus. On cite souvent Interlagos comme un circuit dur avec les chaussures parce que bosselé, mais l'autodromo, leur circuit à eux. Puis surtout, il y a un virage qui est très dangereux, le dernier virage qui est un banking sans dégagement. Effectivement, il y aurait beaucoup de travaux à faire à cet endroit-là pour, ou alors ils font comme le Champ Car, il y avait une chicane où on passait même dans le stade de baseball qui était juste à côté. C'était un peu le bazar de ce côté-là. C'est vrai
mais
que
après,
c'est... Oui.
Après, il y aurait l'hypothèse de 2014, de ce que j'ai pu comprendre, ça serait dans le cas d'une annulation du Grand Prix d'Amérique. Mmh. En fait, reprendre la place, voilà, c'est-à-dire que le Mexique, l'objectif, ce serait 2015, mais que si une place se libérait, on ferait les efforts nécessaires pour être au calendrier dès 2014.
Oui. C'est peut-être plus plausible sur ce plan-là que...
Parce que même avec tout l'argent de Carlos Slim, faut quand même le remettre à niveau, ce circuit. Hein.
Oui, puis attention, c'est pas Carlos Slim lui-même qui finance, alors c'est son fils, non, mais oui. c'est pas le grand boss, quoi.
Mm. Il est beaucoup moins riche que le père.
Oui.
il a que 1% de sa fortune.
Il a un zéro de moins, tu sais.
Papa, je suis pauvre. Non. Regarde avant les zéros. Tu dois avoir un chiffre.
Allez, ce sera tout pour les actus principales.
Oh non, mais on parle pas du Brésil.
Mais on va en parler après, parce que c'est pas exactement pareil, si tu veux. Mais si tu veux, on peut en parler.
Alors toi, tu fais un... Alors je sens le coup gros comme une maison. C'est que monsieur, il fait un thème spécial, les circuits. Et il va faire une actu dont on se fout, comme par hasard, sur moi que ça va tomber. Sur les travaux au Brésil.
Eh bien vas-y, profites-en, parle-nous de ces 52 millions d'euros pour rénover Interlagos.
Ouais, ça y est, on a...
On s'en fout.
C'était... Non, mais là, on s'en fout pas, monsieur.
On lui a déjà dit ta gueule.
Oui, on lui a déjà dit ta gueule.
Oh merde.
Ce ballot. Oh, c'est dommage. Oh, dis donc, pauvre Jupiné.
Oh, vas-y.
Donc, qu'est-ce que tu veux? Le Brésil qui va donc financer des travaux, ça c'était plutôt attendu, à hauteur 52 millions. Ça sera payé par la ville de São Paulo. Voilà, donc il y a la construction d'un nouveau paddock sur 3 étages, avec, je crois, 40 zones d'hospitalité. Parce que c'est l'un des problèmes sur Interlagos, c'est que le confort pour les équipes est très mauvais. Il y aura la réfection des tribunes. Il y aura une modification du circuit, parce que comme ils veulent remettre les tribunes dans la ligne droite après le S de Senna, elle n'est pas suffisamment longue. Donc l'idée, c'est de le rallonger le circuit. En fait, c'est de retrouver un peu l'ancien circuit, de reprendre un peu plus de l'ancien circuit, et de passer derrière un lac qui est actuellement au-delà du virage numéro 4, je crois, le fameux virage Vettel.
Donc, prolonger la ligne droite en contrebas.
Voilà. Donc ça, après, on n'a pas trop d'informations sur le nouveau dessin. Mais moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant sur cette actu, c'est qu'on a appris que comme c'est la ville de São Paulo qui paye, on a appris ce que ça rapportait à la ville de São Paulo. Et il semblerait que la tenue du Grand Prix chaque saison rapporte 100 millions d'euros à la ville de São Paulo. Donc c'est dire
oui, ils peuvent mettre 52 millions.
Voilà, c'est vraiment dire que c'est énormément d'argent. Ça veut aussi dire que c'est quand même un circuit, un pays qui vit depuis des années sur un circuit un peu à l'image de ces de certains circuits européens qui estiment qu'ils ont pas d'efforts à faire, qui prennent 100 millions tous les ans et qui re-signent à faire des petits travaux pour le confort à la fois des équipes mais aussi pour la sécurité des pilotes. On sait que malheureusement il y a eu des accidents ces dernières années et qui sont un peu difficiles à moderniser, quoi. Et là, enfin, ils se sont décidés à moderniser le circuit. Je suis pas sûr qu'on y gagne vraiment, nous, en tant que fans de Formule 1, parce que le S de Senna, au départ, c'est quand même quelque chose de mythique, et ouais. Moi, je ne peux pas. Mais sinon, voilà, là, on a enfin quelque chose de concret. C'était plus ou moins dans les tuyaux, mais là, ça y est, ça semble dans les rails. Maintenant, reste à connaître un peu le calendrier des travaux, savoir quand ce sera prêt, parce que Bernie, là aussi, est très pressant. Et puis surtout, Bernie, il connaît bien les Brésiliens. Il sait qu'ils lui ont fait plusieurs fois le coup de « Oui, on va faire des travaux. » Là, ils ont dit un budget, mais Bernie dit oh, « Le budget, ça ne veut rien dire. Moi, tant qu'il n'y a pas une pelleteuse sur le circuit, même pas, tant qu'il n'y a pas une dameuse qui finit bien de damer le circuit, tous les changements, je ne signe rien. » Donc voilà.
Voilà, t'es content? T'as pu en parler?
Mais alors, j'en appelle aux auditeurs. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec un chapitre circuit? À vous, Chédic, tu voulais mettre ça dans les actus dont on se fout.
Oui, je voulais quand même en parler.
Oui, mais dans les actus dont on se fout. En termes d'image, c'est pas pareil, Chédic.
Il y a quand même un gros pouvoir sur l'émission Shinji, hein. Ça faut que ça change.
D'ailleurs, on me précise, je dois corriger. J'ai parlé d'une dameuse, mais une dameuse, c'est pour la neige. Enfin, vous avez compris, c'est le rouleau, là, le rouleau à damer, enfin, le rouleau, là.
Sinon, je suis d'accord que ça rentre plus dans un chapitre travaux aussi.
Voilà.
Comme ça, on peut parler du site du SAV de Life 1 aussi.
Oui. Oui, alors. Cette page de Life fonctionne très bien. C'est la seule avec la homepage qui fonctionne, mais elle fonctionne très bien.
Ah, Aldra propose compresseur, c'est peut-être mieux.
Oui, un rouleau compresseur. Ah ouais, voilà, c'est ça. Hein. Merci Aldra.
Si souvent rouleau compresseur, on voit pas ce que c'est.
Ouais. Maintenant, ça y est, on visualise quoi. C'est.
Allez, messieurs,
t'as des cheveux blonds.
Au sondage. Mais rassurez-vous, on parlera de vélo, vous inquiétez pas. J'en rassure certains.
Faut aussi qu'on parle des cheveux de Vettel, Fiji. On nous a demandé sur Final Fantasy de parler des cheveux de Vettel.
Oui. Oh, quelle horreur.
Parlons du sondage d'abord. Vous vous souvenez du sondage qu'on avait posé?
Ah, les featuring.
Les featuring.
Ah oui, ah, ah, oui, oui. Les featuring.
Ah, j'ai pas voté, merde.
Quelle chanson aimeriez-vous que Lewis chante sur son album?
Grand vous, sondage.
Vous avez été 85 à voter, merci à vous. Est arrivé ex aequo à la dernière place. Si tu reviens, j'irai tout avec le petit Nicolas. Et Burn Baby Burn avec Paul Embry avec 3 votes chacun. Le dimanche à Bamako avec les Daft Punk. Ça aurait été tellement bien pourtant. 4 votes. Les yeux Revolver avec Helmut Marko. 6 votes à égalité avec le Yuki. Pourtant, il devrait aimer en plus featuring Roscoe le Yuki. 9 votes à I Have a Dream featuring David Guetta. Le pénitencier avec Bernie, 10 votes. Et le podium du sondage cette semaine, à la troisième place, 11 votes. Le téléphone pleure avec Nicole.
Écoute, Nicole est près de toi. Peux-tu lui dire Nicole, c'est Lewis pour toi. Ouf, 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 ouf.
Deuxième, le pilote avec Gus Gus, 15 votes. Tu es fier?
Oui, oui.
Et premier, 18 votes, 21,18%. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances avec Adrien Sutil?
Ça, c'est...
Pourquoi
moi,
pas
j'ai pas suivi les votes sur les dernières semaines. Enfin, à mon avis, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais ça a fait... ça a été très serré, d'ailleurs, 18-15 entre Gus Gus et Sutil. Il y en a, ça a changé tout le temps.
Mm-hmm. Mais ça me rassure, les gens n'ont pas trop des goûts de merde. Ça va.
Ils t'ont mis deuxième.
Justement, c'est pour ça. C'est ça. Qu'on m'interprète pas trop mal.
Alors, messieurs, qu'avez-vous envie de poser comme sondage cette semaine?
Moi, j'ai bien envie de... Alors, j'étais parti sur un truc sur Raikkonen. Je sais pas. Je voulais imaginer Raikkonen dans des endroits bizarres. Et bon, bah Raikkonen, il ira pas chez Red Bull, il ira pas chez Red Bull. Mais j'ai bien envie de proposer un truc sur...
Oui, t'es
par rapport à Alonso.
C'est ça. Où était Raikkonen le jeudi ou le mercredi soir?
Ouais, oui. Que faisait Raikkonen jeudi après-midi à Francorchamps, en Belgique?
Alors, c'est le chat, lui, peut proposer des idées. Hein. Profitez-en.
Mais sinon, on peut, suite à l'annonce de Fernando Alonso qui devient propriétaire d'une équipe cycliste, envisager ce que pourraient acheter d'autres pilotes de Formule 1. Les mieux classés comme les moins bien classés.
Raikkonen, il achèterait une distillerie de vodka. Parce qu'il paraît que les Finlandais boivent, mais il paraît qu'ils vomissent aussi derrière.
Et entre deux, il paraît qu'ils parlent de Ferrari.
Je ne vous dirai pas d'où je tiens cette information, mais il paraît que les Finlandais vomissent.
Alors, les Finlandais sont des êtres humains, donc théoriquement, oui, ils doivent
vomir. Non, mais ils picolent beaucoup, beaucoup, et après, ils vomissent tous. Mais non, voilà, ils mettent un doigt à leur voisin.
Donc, on partirait sur une question du genre, après Alonso, que pourraient bientôt acheter des pilotes de Formule 1?
Donc, quoi pourrait investir des pilotes de F1, ouais. Ça peut être sympa, ça.
Oui, oui.
Ouais, investir, ouais.
Les réponses seront plus rigolotes que la question.
Raikkonen et la distillerie, ça me paraît évident.
Oui, forcément.
C'est pas d'une grande originalité, mais enfin bon, voilà.
Maldonado, avec tout ce qu'il gagne comme pognon grâce à PDVSA...
Ah non, non, attendez, là j'ai un Aldra où Maldonado et Grosjean, une usine de matériaux composites.
Oui. Ah,
pas mal, c'est pas mal.
Ça, c'est bien quand même. Moi, j'ai envie de mettre les deux ensemble. Hein. Une jaune venture, un truc à deux. En plus, c'est pas les mieux payés, donc...
Est-ce que tu peux pas ajouter Perez aussi?
Perez, mais 2%. Hein.
Non, on pourrait faire Maldonado achète une usine de matériaux composites et Grosjean achète une autre usine de matériaux composites. Pour voir laquelle a le plus de chances de réussir dans le marché du matériau composite.
Non, on va mettre les trucs ensemble.
On propose aussi Rosberg et Vettel, un salon de coiffure.
Bah, Lewis Hamilton, un label.
Ouais, ou label. Il pourrait acheter label.
Tu peux la faire mille fois, ce sera pareil. Hein.
Mais laisse-moi faire mes fours. Je les aime bien, mes petits fours. Non, Hamilton, il pourrait acheter un cabinet d'acupuncture canin. Ou une église.
On a aussi une animalerie.
Un vétérinaire.
Un terrinaire.
Regarde, un moulin aussi, ça c'est pas mal.
C'est ça, un chenil.
Ouais.
Un refuge d'ASPA.
Une vie. Sincèrement, Milton, moi je veux qu'il s'achète une vie.
Une petite amie. Ou un rasoir, parce que bon, il y en a pas mal. On pourrait se raser.
Vous voulez quoi pour Hamilton?
Ah, il faut des trucs fun quand même.
Oui.
Fun radio ?
Non.
Le Vatican. Hamilton, il pourrait acheter le Vatican.
Avec tout ce qu'il lui fait comme pub.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Oh là là, quand je le lis, faut que j'arrête de le lire. Quand je le lis sur Instagram, c'est il y a le hashtag God bless ou blessed ou oh là là, c'est arrête.
Moi j'ai arrêté de le suivre personnellement, il me fatigue.
Il monte une photo de son chien, t'as plein de hashtags et en plein milieu t'as le hashtag blessed et t'as God je sais plus quoi. Et alors tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre? Tu nous montres ton chien. Sois en rapport, Lewis.
Non, il faut un truc autour de son chien, ça c'est sûr. Il aime son chien, il adore son chien.
Une usine Canigou, alors. Bon.
Ah, Jackie Ratzenberger propose que Hamilton achète des auditeurs pour son disque. Moi, je trouve ça bien.
Moi, je trouve ça bien aussi. Hein.
Ouais, allez, ouais.
Ah, il y a James, James is mad, qui propose à Diresta de racheter le Comedy Club. Le Jamel Comedy Club. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que parce que j'ai cru comprendre, Ben, que tu trouvais que Diresta avait un sourire suspect en Belgique. Est-ce que c'est vrai qu'il sourit
avant
jamais?
Avant ou après qu'il se fasse tamponner par Maldonado?
Avant.
Parce qu'il avait la tête de bonjour, elle était normale. J'étais tout de suite rassuré. Hein. Mais c'est vendredi, je crois, je l'ai vu deux fois. Il avait un grand sourire. Ça m'a beaucoup. J'étais très inquiet pour lui.
Il venait de sortir de chez Red Bull. Ouais, donc, ils vont m'engager.
Je sais pas.
Red Bull, ils ont dit qu'ils engageraient un mec avec un accent italien. Tant que son nom signé italien, ouais, c'est pas que moi. Quoi.
Alors, j'en ai 5 pour l'instant. Raiko, une distillerie. Maldo, Grosjean et Pérez, une usine de matériaux composites. Rosberg et Vettel, un salon de coiffure. Hamilton, des auditeurs pour son disque. Et Diresta, le Jamel Comedy Club.
Chilton pourrait investir dans F1 2013, par exemple, pour apprendre à piloter.
Ah ouais, puis ça, c'est dans son budget.
Oui, voilà, c'est ça. Son papa peut lui acheter, au pire. Hein.
Oui.
Sinon, Weber pourrait investir dans une usine de Kers.
Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je soutiens ce projet. Voilà, on peut faire plus subtil en disant qu'il faut qu'ils rachètent Magneti Marelli. Alors, c'est peut-être pas les Magneti Marelli qu'ils utilisent.
Non, maintenant c'est des McLaren. Enfin, ah oui, en même temps, c'est des alternateurs, ça. C'est que les alternateurs.
Parce que les alternateurs, oui. Les Kers, c'est des
Kers. C'est le Kers Renault.
C'est Renault, hein. Est-ce que Renault sous-traite?
Oh, des Français qui sous-traiteraient. Non, on fait construire à l'étranger. C'est un Kers Renault.
Ils piquent celui de chez Mercedes. Ils vont leur piquer quelques chevaux pour l'an prochain, s'il vous plaît.
Donc là, on en est à combien, Shinji? 8
7, Weber, j'ai pas noté, en fait. Magneti Marelli, des Kers Renault.
Non, une usine de Kers. Une usine de Kers.
Usine de Kers.
Oasis, qui nous précise sur le chat des embrayages.
Oui. Un ingénieur.
Ouais, mais des Kers, c'est plus drôle. Voilà, moi, je me suis fâché avec toute l'équipe du SAV déjà, donc je vais me fâcher avec les auditeurs aujourd'hui.
Oh, alors, Raikkonen qui lui dit Pérez Hülkenberg, une clinique dentaire. C'est pas bien, ça, de stigmatiser les gens pour leur physique.
Ah, ils peuvent peut-être demander à Ricciardo où il a été.
Je suis pas crédible, mais c'est pas bien.
Pas crédible, en effet, ouais.
Ah, maintenant qu'on fait un live, Shinji, moi, je suis obligé de... voilà, d'avoir tenu, quoi. On peut plus dire de bêtises, on a plus le droit.
Ouais, bientôt, il sera même obligé de faire des vannes drôles.
Ça va être dur, hein.
Donc, il en manque deux, c'est ça, hein.
Qui on n'a pas cité? Massa, un avenir. Moi, je veux que Massa, il s'achète un avenir.
Ouais.
Un volant.
Ouais, faut que Massa, il s'achète un volant. Felipe.
Vous voulez un avenir ou un volant?
Un volant.
Je trouve
ça cool. Un volant.
C'est large, ça lui laisse du choix. C'est pas forcément un volant de F1.
Et on a Oasis qui propose pour Pic une paire de ciseaux, ça serait pas bien. Ça serait pas mal pour couper ses cheveux.
Sinon, il y a Ricky.
Du gel, un pot de gel.
Un film de Fernandel aussi.
On a Jean Alési, une usine à gravier.
Non, mais on n'enfonce pas les portes ouvertes, ouais, ça va.
Non,
dans ce sondage, on n'enfonce aucune porte ouverte.
Pic, à la limite, c'est pas des ciseaux qu'il a besoin. S'il doit investir, c'est dans une usine de lac. Parce que c'est ça, quand même, qu'il utilise le plus.
Ou une tronçonneuse.
Ou de la répartie, ou s'il pourrait s'acheter de la répartie.
Oui.
Ça sent le petit tac, le... Vas-y, balance. Grille-toi dans le paddock, mais balance.
De presse du vendredi. Du vendredi ou du jeudi? Du jeudi, pardon. Ils ont les questions traditionnelles de la FIA, etc. Et puis, question des journalistes présents. Et première question, c'est celle de Julien Febreau de Canal+, qui demande à tous les pilotes présents, sauf à Romain Grosjean.
Excellente question, d'ailleurs.
Père. Sur tout le monde, ça est parti forcément en vrille. Vettel a dit que pour sa part, de toute façon, la participation des mecs, en gros, c'était assez facile. Donc lui, il voulait bien participer, mais juste à la création. Après, il fallait rien lui demander.
Vettel, il a dit que lui, pour le moment, il en était surtout aux essais libres.
Voilà.
Qu'est-ce que ça va donner quand il va passer au calife?
Il a dit pareil.
Tu sais, le moment où il met le kers.
Non. Epic a répondu, ouais, moi pour le moment je me concentre sur la course, blabla. Donc ils ont tous déconné un petit peu, sauf lui, qui est resté minimum rigide.
Mais après en même temps, j'ai beaucoup aimé cette question de Julien Febraud, et j'avoue que j'ai été un petit peu déçu que les pilotes l'escamotent un peu, et qu'ils fassent un peu d'humour dessus, d'accord, mais globalement quand tu relis tout ce qui s'est dit, bah les mecs nous disent rien, quoi, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Ils auraient pu blaguer sur la fin, faire un deux trois traits d'humour, c'était pas gênant, mais répondre quand même à la question et donner une vue d'ensemble. Moi je trouve que bon, Pic, c'est peut-être un peu à froid ce qu'il dit, mais c'est peut-être à la limite le seul qui donne une réponse pour le coup un peu intéressante.
Regarde aussi, il a dit que lui va se marier, je crois, c'est ça, et il pensera à ça dans quelques années, pas tout de suite.
Ah, on a un anonyme qui nous propose, ouais, c'est un juge que Bernie devrait acheter, donc faut que Bernie achète les juges.
Ah, je pense qu'on peut le mettre celui-là, hein. Oui. Oui.
C'est quand même bizarre qu'il ait pas pensé avant Bernie.
Oui, c'est tellement simple.
Il a pensé à faire un prix à son nom.
Là, j'en ai 9.
Sinon, Vettel pourrait s'acheter une popularité aussi.
Ah non, il doit déjà acheter avec Rosberg un salon.
Ah ouais, c'est vrai, il doit déjà acheter un truc.
La Corée pourrait s'acheter un circuit.
Ah mais ils sont nombreux aussi.
Oui mais la Corée ouais, particulièrement. Oui, il faudrait qu'ils en achètent un.
Pilote et oui, enfin Bernie on s'en fout de toute façon, mais voilà. Donc un dernier petit choix, on a cité Raikkonen, Maldo, Grosjean, Perez, Rosberg, Vettel, Hamilton, Di Resta, Chilton, Weber, Massa, Bernie. Il en reste plein.
Les fans de Kimi Raikkonen peuvent s'acheter du respect.
Non, 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 n'attaque pas les fans de Kimi Raikkonen.
Bah tu peux pas le faire, donc je le fais.
Oui, non mais, moi j'ai envie de défendre ces gens. C'est des gens formidables, les fans de Kimi.
C'est vrai.
C'est des gens merveilleux, plein d'amour.
N'est-ce pas, Ben?
Non mais c'est pas grave, c'est la frustration du mec qui supporte un pilote qui roule dans une charrette et qui sera de nouveau pas champion du monde, c'est triste, mais voilà. C'est triste d'être aigri comme ça, Dino. Vraiment,
on t'emmerde.
Allez,
je rêve que Kimi vienne chez Ferrari.
Pour le sondage.
Une dernière. On a fait un truc sur Sutil.
Non.
Des flûtes à champagne.
Même sur le chat, ressortez parce que peut-être.
Un casque pour brancher sur son piano qu'on l'écoute.
Oui, un casque pour se cacher dedans même à la limite, tu vois.
Sutil, il pourrait s'acheter un charisme, du charisme.
Une ouais. De
ou un ami vu qu'il a plus Lewis Hamilton.
Il pourrait s'acheter une.
Ah ouais, Sutil pourrait s'acheter un ami, ouais. On sait, il pourrait l'appeler s'il participe à Qui veut gagner des millions.
Ah oui, c'est vrai, c'est pratique quand même.
Pour rembourser le coût d'achat. Moi, j'ai envie de proposer ça. Sutil, pour qu'il s'achète un ami, pour pouvoir appeler un ami quand il participe à Qui veut gagner des millions, et rembourser le coût de l'ami.
Alors, je veux bien mettre un ami pour jouer à Qui veut gagner des millions.
Et rembourser le coût
ouais,
d'achat.
Non, après, le truc, il va durer.
Je m'en fous. T'as fait plus long, Shinji. De toute façon, les gens ne voteront pas pour ça.
De toute façon, les gens ne voteront pas.
C'est vrai. Ah oui, on a aussi, tiens, on a une proposition. Vettel, il faudrait qu'il s'achète un casque. Mais juste un.
Voilà. Sans les pots de peinture qui vont avec.
C'est vrai que l'an prochain, avec Ricciardo, ça va être facile de distinguer.
Bah, dans ce cas-là, je dégage Sutil et je mets Vettel un casque, mais avec un 1 en majuscule.
Bah, ou sinon, tu mets un casque, trois petits points, mais juste un seul.
Mais juste un seul.
Voilà.
SOS amitié spéciale Sutil.
Bon, il n'aura pas d'amis, hein, Sutil, hein, tant pis. Hein.
Je suis sûr qu'il a une page Facebook.
Il a peut-être même un site internet.
Waouh.
Eh ben c'est bon, on a toutes nos propositions. Donc, après Alonso, dans quoi pourront investir des pilotes de Formule 1? Vous aurez le choix entre Raikkonen et une distillerie, Maldonado, Grosjean et Perez dans une usine de matériaux composites, Rosberg dans un salon de coiffure, Hamilton dans des auditeurs pour son disque, Di Resta dans le Jamel Comedy Club, Chilton dans F1 2013 pour apprendre à piloter, Weber dans une usine de Kers, Massa dans un volant, Bernie dans des juges, et Vettel dans un casque, mais juste un seul. Ça vous plaît?
Magnifique.
Oui.
Ah, c'est très bien. On va continuer avec les actus dont on se fout.
Ouais.
Vous voulez parler vélo? Ou vous voulez qu'on retarde le moment vélo un peu plus tard?
Non, chute, en fait, chute à l'arrière du peloton.
Et voyons la belle abbaye de Saint-Jean de Sang.
Ah, toi, tu es en train de lire Wikipédia. Bravo.
Oui, c'est ça. C'est sur la Wiki.
Donc c'était la fameuse actu, la fameuse nouvelle hein, que devait annoncer Fernando Alonso, hein. Celle dont plein de sites ont dit oui, attention, il va peut-être annoncer quelque chose, peut-être qu'on va savoir son avenir en F1.
Non, certains n'ont pas dit peut-être.
Tu sais que moi j'ai lu ça juste avant de partir au travail, je suis arrivé au boulot, j'avais pas la grande forme. Dès que j'ai pu, je savais que ça sentait le que voilà, qu'Alonso est quand même trop pro pour annoncer comme ça aussi légèrement. Mais quand même, dès que j'ai pu, parce que à mon travail, j'ai pas internet, enfin j'ai même pas de wifi, j'ai rien, je capte rien dans mon travail. Donc dès que je pouvais essayer d'avoir un peu de réseau dans une cuvette, dès que je pouvais avoir un peu de réseau, j'allais vite fait sur Twitter et compagnie voir prendre des nouvelles, je voulais être sûr. Ah, lundi soir, c'était un ouf de soulagement.
C'est peut-être pas fini. Oui. Parce qu'il a dit j'ai des nouvelles à vous annoncer, mais c'est peut-être pas, peut-être plusieurs.
Oui, il a acheté une équipe, jour. Il va en être le leader.
C'est le prochain jour aussi, il a annoncé qu'un jour, quoi. C'est, tu vois ?
Oui.
On est avant
Alonso, voilà, qui...
Oh ah, il va qui annoncer que Dasha rentre à l'école.
Ça montre quand même la différence de moyens, hein, quand même, parce que un pilote de F1 puisse se payer une équipe entière de cyclisme.
Bon, elle coûte que 6 millions.
Oui.
Enfin, voilà, ça, faut...
6 millions, t'imagines combien Bell pourrait s'offrir de kits de cyclisme.
Et même, de ce que j'ai pu comprendre, il l'achète pas lui directement, en fait. Il a réuni autour de lui ses différents sponsors.
Oui, et c'est l'équipe va pas s'appeler Fernando Alonso.
Alonso, il est malin. Alonso, il ne sort rien de sa poche. Ferrari aussi est malin. Alors, le salaire d'Alonso, il ne le sort pas de leur poche. Il sort de la poche de Santander. Mais...
bah, dis-le que c'est Santander qui va payer l'équipe.
Bah oui, on n'a pas encore le nom, mais ouais, ça peut facilement être ça. Alors c'est l'ancienne équipe Euskaltel-Euskadi qui, ça faisait 15 ans, je crois que qui existait et ça avait un peu fait du bruit dans le milieu du cyclisme parce que on avait annoncé qu'à la fin de l'année, donc ils arrêtaient. Et donc là, le flambeau espagnol est repris. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes espagnoles, enfin aussi emblématiques que ça, quoi, avec une vraie identité espagnole. Il y a Movistar et compagnie, mais
identité basque.
Basque,
ouais.
Mais c'est pas voilà, un projet qu'il avait déjà depuis. Il avait déjà voulu racheter à une époque une équipe cycliste.
Il y avait eu une rumeur en 2010 quand Contador, qui est son grand ami, était à la recherche d'une nouvelle équipe. Et à l'époque, on avait dit oui, bah c'est peut-être Alonso qui va monter une équipe pour son ami.
Mais il avait été intéressé, je crois, hein, lui, Alonso, de monter une équipe.
Je sais pas, ça avait été des rumeurs, je sais pas jusqu'à quel point ça avait été vrai ou pas. Bon, finalement, Contador était parti chez, bah, là où il est encore, là, à la Saxo Bank.
Donc, alors, en tout cas, il était pas passé pas avant à, comment ça s'appelle? Ah non, parce que c'est, je crois que Alonso, c'est à l'époque où Contador était suspendu ou je sais plus quoi.
Oui, voilà, il était chez Astana et, justement, il cherchait, une autre équipe. Et là, d'ailleurs, justement, depuis qu'il a racheté l'équipe, on dit que Contador pourrait peut-être rejoindre l'équipe, parce que c'est le grand ami d'Alonso.
Mais est-ce que Ferrari fournira les moteurs?
C'est une grande question.
Mais il pourrait fournir les vélos, parce que je crois que les vélos de la Sky, en tout cas, il me semble que c'est les vélos de contre-la-montre de comment il s'appelle, le coureur de la Sky, là, qui est super balèze. Avant,
Wiggins.
Wiggins, non, avant, non, mais un mec qui fait du contre-la-montre, enfin, un sprinter.
Ah, Cancellara?
Cancellara. Il me semble que c'est un vélo McLaren, que McLaren a développé des vélos pour la Sky. Donc, pourquoi pas imaginer que...
Sky, oui, c'est ça.
Oui, mais alors c'est, non, mais c'est l'autre, là, enfin, c'est un mec.
Un type.
C'est un cycliste.
Vous voyez, un type, un cycliste.
Vous voyez, Dino ne sera pas dans le SAV du cyclisme.
Ah, merci Seigneur. Mais bon, après, voilà, on peut imaginer des vélos Ferrari. Il y avait eu des vélos Peugeot.
Oui, enfin,
il faisait des vélos avant de faire des voitures, je crois, mais bon.
Il faisait même des moulins à café.
Ah là, Peugeot.
Voilà.
Ça devient quoi, cette marque?
Ils ont mis derrière les McLaren, non? C'est pas ça? Quelques rares voilà. De certes.
Non, mais au final, c'est bien, parce qu'enfin, derrière l'équipe, il y a des coureurs, il y a tout un staff. Normalement, les coureurs, ils auraient peut-être pu aller autre part, mais il y en a certains qui seraient peut-être partis au chômage. Donc, c'est pas plus. Bon, elle sera plus basse, parce qu'apparemment, il va la ramener en Asturie. Ouais. Mais elle avait toujours le nom. Et là, apparemment, oui. Le siège sera aux Asturies, là d'où vient Alonso.
Mais même pour Alonso, c'est aussi un moyen un peu plus de rentrer dans le cœur des Espagnols. Enfin, c'est quand même une équipe avec beaucoup de coureurs espagnols. Et c'est une équipe... Bon, Euskaltel, ça a toujours été là, sur le Tour de France et les Pyrénées. C'est la fierté espagnole, Euskaltel. C'est pour ça que je dis que c'est une équipe à part en cyclisme.
Même basque, hein,
parce que oui, voilà, c'est la fierté d'un pays. C'est donc que ce soit repris par Alonso, que ce soit sauvé. En plus, dans un contexte de crise économique, c'est aussi ça qui pousse le qu'on le soir à partir dans un contexte de crise économique, que le pilote le plus populaire et l'un des sportifs les plus populaires en Espagne sauve une équipe, sauve des sportifs, enfin sauve ses confrères. Pour Alonso, ça c'est voilà, c'est 6 millions d'engagés, mais c'est une pub et c'est ça lui donne une aura, je pense, encore plus grande en Espagne. Quoi.
Sinon, autre actu, une confirmation, on l'avait évoqué lors d'un quiz, c'est David Ward, donc c'est fait, il s'est porté candidat, théoriquement il affrontera Janton, même si Janton s'est pas encore déclaré, mais on pense qu'il devrait y aller aussi. Il a démissionné d'ailleurs de ses fonctions à l'EFIA, ce qu'il n'était pas obligé de faire d'ailleurs, il l'a précisé.
C'était ma citation, enfin pas exactement ça, mais c'est j'ai une citation de lui, du communiqué où il annonce sa démission, parce qu'il déclare que le processus d'élection implique inévitablement des débats robustes et dynamiques, sauf que pour l'instant, personne n'a absolument aucune idée de la teneur des débats qui vont être tenus, ni même si ces débats auront vraiment lieu d'être, parce qu'on l'avait évoqué la dernière fois, on a un peu l'impression que David Ward est juste un candidat de principe pour que Todd ait une opposition... et pas que sa réélection ressemble à
et un peu un le scrutin. Candidat des un peu le candidat des Anglais, de Bernie et de Max Mosley aussi un peu.
Oui aussi, mais en tout cas pour l'instant, on n'a aucune idée du projet qu'il va porter lors de cette élection. C'est surtout ça que je voulais souligner en choisissant cette citation.
Après, de débat, c'est comme c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un homme qu'on attend derrière, il n'y aura pas de débat tant que Jean-Tol ne sera pas officiellement candidat.
Oui.
Voilà, on voit ça lors des élections présidentielles, on attend toujours, je crois que c'est lors de la dernière, on avait Hollande qui était déclaré, tout le monde était déclaré, on attendait juste de savoir quand Sarkozy allait être, parce que c'est quand le mec qui est en place est candidat que enfin le débat peut commencer, même si on sait que le débat il n'est jamais véritablement commencé.
Oui d'accord, mais le débat se base sur un projet au départ, là on ne sait pas absolument pas ce qu'il va faire. Je veux dire, tu prends le parallèle avec les présidentielles, en attendant que Sarkozy se présente officiellement, enfin se déclare sa candidature, Hollande il a eu le temps de faire ses propositions et ils ont eu le temps de rentrer dans
oui, mais le projet viendra après. Le projet, de manière générale, de toute façon, les projets ils viennent toujours après. On va rester sur le parallèle avec la politique. Hollande, il était parti sur un projet. Si tu regardais bien le projet, entre-temps, il a évolué au fur et à mesure de la campagne, en fonction des aléas, tu accentues certains aspects, tu as proposé de nouvelles idées, ça redessine les axes forts, il y avait déjà une base. Maintenant, lui, il y a rien. Pourquoi? Parce qu'on le connaît pas, parce qu'on n'en parle pas, parce que, sincèrement, on s'en fout de l'élection du président de la FIA. Faut bien dire, qui se rappelle de ce que disait Vatanen il y a 4 ans, 5 ans?
Oui.
Mais on n'en sait rien, parce que le débat de fond, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va retenir du programme de Jean Todt? Programme de Jean Todt, on sait même pas, je me rappelle même pas de ce que c'était. Encore une fois,
il a mis c'est des une lutte de pouvoir.
C'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte de d'ego, ça sera une lutte d'ego. Ce qui peut être lu dans les déclarations, le fait qu'il démissionne de son poste de la FIA, c'est quand même qu'il prend les choses sérieusement. Voilà, même si c'est peut-être aussi un peu de la com de dire, vous voyez, je suis sérieux, hein, vous voyez, je renonce de ma grandeur, je renonce à mes fonctions. Alors que je suis pas obligé, hein, mais je renonce quand même. Mais le fait qu'il y renonce quand même, ça peut être le signe d'une détermination à véritablement débattre. Alors après, le débat, il viendra, il y aura forcément des sujets, il y a des choses qui vont ressortir dès que Jean Todt va se déclarer candidat. Là, d'un coup, effectivement, on va se demander, on va d'abord faire un bilan de Jean Todt, et on va se rendre compte que le bilan de Jean Todt, c'est bien sur certaines choses, mais la FIA a perdu en autorité sur la F1, ils ont rien n'a été amélioré dans la réglementation, etc. En tout cas, dans le respect des règles. Je pense que le débat il sera là, mais en attendant, Jean Todt. Et je pense que le jeu de Jean Todt pour moi, c'est de ne pas se déclarer candidat, parce qu'il a aucun intérêt à aller au fond pour le moment, puisque effectivement derrière, Ward ne peut rien dire pour le moment, puisqu'il peut pas attaquer le président en place pour le moment.
Sinon, Gus, tu as voulu parler de Lotus, qui va présenter une Lotus remaniée pour Monza, une voiture rallongée.
Oui.
Peut-être une, peut-être deux.
Voilà, c'est ça. Peut-être une, peut-être deux, ça dépend de... Alors, ils ont les moyens d'aligner deux voitures complètes. Le problème, c'est qu'ils auraient pas à ce moment... On sait pas s'ils auront les pièces de rechange nécessaires. Donc, s'ils ont pas les pièces de rechange, ils feront ça sur une seule voiture, à savoir laquelle... parce qu'on va peut-être pas prendre des risques sur celle de Raikkonen. Enfin, remarque.
Remarque, de toute façon,
plus logique.
C'est qui tout double, hein.
Oui.
De toute façon, des risques, il faut qu'ils en prennent maintenant.
C'est vrai.
De toute façon, c'est quel que soit le pilote qui aura la voiture allongée, ça sera interprété au vu de ce qui se passe en ce moment.
Oui, c'est clair.
Oui, bah oui. De toute façon, F1, tout est interprété. Donc,
Oui.
Mais donc, on parle d'une voiture plus longue d'une dizaine de centimètres. Alors, c'est un chiffre qui est lu sur Autosport, il me semble. C'est quand même un travail qui est pas anodin parce qu'il faut retravailler, alors, dans le cas de Lotus, ils ont retravaillé les suspensions avant, les triangles, pour que, donc, les roues soient 10 centimètres plus en avant de la coque.
Mais rappelons, vous savez, c'est les fameuses suspensions qui sont illégales, mais qu'on leur a autorisé à utiliser jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de refaire quasiment une deuxième voiture.
Oui, étrangement. Donc, modifier les suspensions, ils vont faire un nouveau nez pour que... parce que le problème, c'est que quand on bouge les roues, comme beaucoup comme le règlement est basé sur la position des roues et la position du cockpit, dès qu'on bouge les roues, on bouge un peu tout sur la voiture. Donc là, c'est l'aileron avant qui doit être avancé d'une dizaine de centimètres. Donc il faut un nouveau nez, il faut peut-être un nouveau soubassement aussi parce qu'on peut l'avancer d'une dizaine de centimètres, enfin ça demande beaucoup de travail. Et donc les avantages, c'est que un empattement plus long, ça te donne une voiture un peu plus stable, notamment dans les courbes, ça a plus d'effet dans les courbes rapides. Par contre, t'as une voiture qui est moins agile pour les virages longs, quoi. Un bus, ça tourne moins bien qu'une Mini Cooper.
Ça tombe bien, hein, parce que la plupart des circuits à virages longs, on les a passés. Il reste Singapour et après, je vois pas grand chose. Ah non, c'est bien.
Et allez, pour finir les actus, donc
elle a repassé les crash tests, hein, d'ailleurs, je pense, la voiture.
Oui, puisqu'il faut
pour montrer que, comme disait Gus, les 10 cm, c'est pas anodin, quoi. C'est pas un petit changement, on rajoute pas juste 10 cm et.
Ah, monsieur, 10 cm, c'est jamais anodin.
Allez, pour finir les actus dont on se fout, je vais faire plaisir à Dino, hein. Vas-y, parle-nous de la coupe de cheveux de Vettel.
La coupe de cheveux, c'est quelqu'un l'a mis?
Oui, quelqu'un l'a mis.
On s'en fout, enfin.
C'est très, très bon.
Qui l'a mis?
C'est Gus, je vais vous dire l'intitulé de l'actu. Sébastien Vettel et Fab changent de coupe de cheveux. Alors, moi, j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse, c'est pas Sébastien Vettel, c'est Fab.
Oui, alors, on n'a pas les détails de la coupe de cheveux de Fab, mais lorsque Sébastien Vettel a fait un buzz avec sa nouvelle coupe de cheveux, Fab s'est offusqué sur Twitter que personne ne parle de la sienne. Alors, je lui ai promis que ce serait ma cinquième actu pour ce mag. Mais on n'a pas plus de détails sur la coupe de Fab.
Par contre, Vettel, on en a sur la coupe de Vettel et...
J'ai peur de près. C'était très bizarre.
Très blond, non?
Mais dans le fond du l'hospitalité Red Bull, en fin d'après-midi, il faisait déjà gris et la lumière commence à baisser, vous ne voyez que Louis.
Non, mais voilà.
Enfin, Vettel avait les hauts bras. Il prend des pattes, là, mais...
Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que on m'a retoqué comme argument qu'on n'avait rien dit sur la coupe de Vettel. Mais... on n'a rien dit parce qu'on s'en fout. La même manière qu'on se fout de Roscoe, la même manière que on se fout de plein de trucs people gossip dont on n'a rien à foutre et dont pourtant on nous parle pendant les retransmissions, dont on parle dans le paddock. Voilà, la coupe de cheveux de Vettel, on en a parlé, Julien Febro en a parlé, enfin tout le monde en a parlé. On s'en fout quoi, tant qu'il ça pas de la, ça l'a peut-être rendu plus vite. C'est visiblement, ou alors c'est la Red Bull, mais j'ai du mal à croire que la Red Bull est aussi vite évolué.
C'est pas du cirque que autour de Kimi Raikkonen.
Mais voilà, enfin moi, enfin je suis désolé, mais
coupe de cheveux du pilote est intéressante.
C'est comme, enfin c'est typiquement le genre de truc sur Raikkonen, c'est pareil. Je crois que c'est en Belgique l'année dernière où il s'était cassé la gueule, il s'était récupéré avec une bouteille ou je sais pas quoi. Ça avait fait des titres sur les journaux, mais on s'en fout. C'est voilà, Kimi Raikkonen se casse la gueule. Ah la super news quoi. C'est voilà, si les gens ils veulent qu'on parle de ça, on va en parler, mais bon...
Tu le cites, quoi, t'as pas besoin, on trouve pas des papiers...
Ah non, maintenant il y a mieux, il y a un nouveau concept, je balance ça, il y a un nouveau concept, c'est la galerie photo, une équipe par jour, après le Grand Prix. Je dis ça, je dis rien, c'est un nouveau concept pour attirer du lecteur.
D'accord, 11 équipes multipliées par 4, parce qu'il y a aussi les photos du jeudi dans ce cas-là, oh mon dieu, ça en fait des galeries.
Ça en fait des pages pré-pub, dis donc.
C'est là aussi que tu peux voir les photos impressionnantes de la propriété de Schumacher.
Oui, dont on se fout aussi complètement.
Voilà.
Exactement.
C'est ce qui me semble. Messieurs, on vous aime.
Non, mais après, quand même, faut dire à Sébastien, là, c'est un mauvais choix. Autant t'as fait des plutôt bons choix jusqu'à présent, autant là, je voulais bien te défendre. Allez, essai libre 1, ça me choquait pas trop. Essai libre 2, ça commence un petit peu à me titiller. Mais putain, les essais libres 3, j'en pouvais plus. Non. Après, je te comprends. J'ai eu cette période où je me suis dit, voilà, je cherche mon identité. Tu es encore jeune, Sébastien. Moi aussi, quand j'avais 14 ans, j'ai fait l'erreur d'entrer dans un coiffeur et de dire, est-ce que vous pourriez me décolorer les cheveux? Pensant qu'il allait juste me faire une teinte et que ça pourrait partir. Mais bon, c'est pas grave. C'est une erreur. Il faut que tu répares ça tout de suite, Sébastien. Fais un changement. Demande à Adrien. Faut qu'il te reconfigure.
Adrien, il va tout raser. Hein. C'est pas aérodynamique, tout ça. Hein.
Messieurs, vous avez préparé vos citations?
Oui.
Oui, bien sûr.
Ah, mais je l'ai déjà dite, moi.
Bah oui.
Et t'en trouves une autre?
Qui veut commencer?
Oh, moi, ça va être court. C'est une comique. Enfin, c'est oui. Pas vraiment une citation, en fait. C'est,
Pas trop d'effet d'annonce, hein, quand même. Non, si non, on rigole c'est... pas.
Moi aussi.
Moi, ça m'a fait rire, en tout cas. Mmh, ça m'a fait rire.
Vas-y.
C'est Lotus, sur sa page Facebook, qui met « Pas que l'annonce de hier nous ait fait rire ou quoi que ce soit, mais quand même, un de moins. » Et en dessous, t'as une grosse photo, trois logos, le logo de Ferrari, le logo de Lotus et le logo de Red Bull avec une grosse croix sur le logo de Red Bull et écrit en grand le hashtag « One Down ». Voilà, j'ai trouvé que c'était amusant. Je trouve que Lotus est très efficace sur les réseaux sociaux.
Mais alors, je vais te dire, ils ont oublié un logo. Hein, parce que moi, ça concerne mon autre citation. Ma citation, je ne devrais probablement pas l'être, mais je suis complètement ouvert. Ah, attention. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette phrase. Ce n'est pas forcément ce que vous croyez. C'est Martin Whitmarsh qui admet qu'il considérerait ramener Kimi Raikkonen chez McLaren. Ils ont oublié un logo chez Lotus.
Mais j'ai lu des versions différentes. C'est-à-dire, j'ai lu sur certains sites que que Raikkonen, l'entourage de Raikkonen, avait contacté McLaren. Et dans d'autres, j'ai lu que non, il y avait strictement rien eu. Et dans d'autres, j'ai encore lu que c'était McLaren qui cherchait à avoir Raikkonen. C'est quand même dire, ça part dans tous les sens.
La version d'Autosport, c'est ils ont eu des discussions l'an dernier avec McLaren. Cette année, il n'y a rien eu. Mais évidemment, un pilote comme ça sur le marché qui s'intéresserait à McLaren, il réfléchirait un petit peu.
Non, mais je crois surtout que toutes les équipes peuvent annoncer. Moi, si demain, j'ai un truc de Marussia, bah écoutez, on y a pensé, ça m'étonnerait même pas, tu vois.
En GP3, ils y ont pensé aussi.
Ouais,
c'est vrai, ça. Peut-être qu'ils pourraient faire du GP3, ça pourrait être marrant.
Dino, ta citation?
C'est cool parce que j'avais une citation drôle et je me suis dit, je vais pas la prendre. Parce que c'est pas sérieux, on pourra pas développer derrière. Voilà. Donc j'ai pris une citation sérieuse. La drôle, c'était, quand même, l'affaire, c'est justement dans le reportage sur F1 Racing au Mexique, où le journaliste accompagne Sergio Pérez, ils prennent un taxi et le taxi dépasse pas mal de voitures. Et à un moment donné, Sergio Pérez lance au journaliste, je ne sais pas si Jenson Button appréciera. Mais sinon, la citation, c'est une citation de Claire Williams qui déclare « Nous faisons des recherches pour voir qui se démarque et qui est en phase avec l'esprit de l'équipe parce que Williams cherche déjà un successeur à Valtteri Bottas. Maintenant qu'ils ont fait monter Valtteri Bottas en Formule 1, ils cherchent un autre pilote à promouvoir. Il y a Giocondella qui est dans les tuyaux.
Mais voilà,
je sais pas, c'est je connais pas ce pilote, c'est Giocondella.
Giocondella,
je crois. Giocondella. C'est important. Est-ce que c'est un pays pétrolier? Est-ce que c'est un pays avec un très gros sponsor? C'est surtout ça qui est important.
Mais non, Williams. Mais c'est justement ce qui est intéressant chez Williams, c'est que comme ça a entre guillemets marché pour moi avec Bottas, même si Bottas, son avenir chez Williams, c'est pas sécurisé et que on sait que Hakkinen cherche éventuellement d'autres solutions et des portes de sortie. Mine de rien, malgré la difficulté financière et les difficultés techniques que peut rencontrer aujourd'hui Williams, il cherche quand même malgré tout à promouvoir des jeunes pilotes et aider des jeunes talents. Bottas, je suis sincèrement pas sûr qu'il aurait eu beaucoup de soutien pour venir en Formule 1 en dehors de ça, quoi. Et Giocondella ou Giocondella, je sais pas comment il s'appelle, c'est pareil. Donc je pense que c'est bien d'avoir aussi des équipes qui sont dans cette philosophie-là. C'est une sorte de filière Williams qui est en marche.
Un jour, on aura... Donc le niveau pognon, il doit pas en avoir beaucoup.
Ah non.
Ah non, tout est pris par Alonso, donc.
Mais c'est ça le pire. Alonso, bah, demain, il irait.
La carrière d'un jeune compatriote, non?
Oh.
Bah de son gamin. Hein.
quand il aura quitté la Formule 1, il s'intéressera peut-être aux jeunes. Oui. Mais là, enfin, oui, il s'intéresse aux jeunes, mais pas les jeunes pilotes.
Sinon, Gus Gus, pas une dernière petite citation, non?
Non.
Bon, très bien. Dans ce cas, vous savez ce qui arrive juste là, maintenant?
Oui, c'est le répondeur.
Très bien.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
C'est quand même la première émission où on passe les jingles pendant l'émission.
Oui,
on est obligé, hein, live oblige, mais
ils sont pas si bien ces jingles.
Non, c'est mais tu vois ce qui est bien, c'est que maintenant ils sont bien insérés, ils sont introduits.
Oui.
On aura plus à dire, ah là, celui-là, comment je vais le mettre? Et quand tu réécoutes, tu dis, bon bah en fait, je l'ai mis n'importe comment.
Alors messieurs, nous avons trois questions au répondeur. Alors, on a une question sonore qui n'est pas vraiment une question. Messieurs, est-ce que vous voulez l'écouter? Est-ce que vous voulez qu'on la partage malgré tout?
Oui, allez, partageons.
Ouais, dénonçons-le.
J'ai envie de dire, il y a une question. Hein. Donc, c'est un message de
arrobas. Et d'ailleurs, Shiji, j'ai préparé la réponse.
Très bien, c'est très bien. Donc, un message de arrobas suivez la F1, c'est un compte Twitter sur, vous savez, notre module audio.
Bah juste pour savoir si ça marche. Allez, bisous.
Eh bah oui, ça marche.
Oh putain, la préparation de malade.
Donc, voilà. Alors, chers auditeurs, est-ce que le live marche? Non mais c'est, on se demandait si ça marchait. Il faut dire, Shady. On se disait, tiens, il y a tout le temps Adelin qui pose des questions.
Oui,
est-ce
c'est
que
vrai.
Ça marche vraiment? Oui. Ça se trouve, il y a que Adelin.
Qu'en Belgique.
Mais maintenant, on sait que ça marche, quoi. Voilà, c'est... Merci.
Merci. Sinon, nous avons eu une question qui est arrivée lundi. Une question de Globen. Est-ce que Globen est encore là sur le chat?
Oui.
Très bien. Alors, j'aimerais, avant de dire cette question, rappeler que la drogue, c'est mal.
Ouais, mais c'est Globen, on
est
habitué.
Un des plus gros consommateurs en France.
Winners don't take drugs. Vous êtes des winners, vous ne prenez pas de drogue. La question de Globen. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre excellent podcast que je découvre.
Ah, il me redécouvre, hein.
Vous sentez le truc quand même, hein. Votre traitement de l'actualité F1 est remarquable et, si certains chroniqueurs sont totalement nuls, les meilleurs sont juste un peu idiots. Je regrette, Globen, que tu n'aies pas mis les noms.
Il peut les mettre dans le chat.
D'ailleurs, je tiens à souligner que je vous ai recommandé, avec beaucoup de succès, dans le petit milieu des amateurs de calendrier. EDF, Éphémérides de France, envisagerait même de vous décerner un prix, les gars, hein. Un prix pour le SAV, ça serait quand même classe. Mais Globen nous pose quand même une question. Mais voici donc ma question qui me brûle depuis des années. Les pilotes de F1 apprécient-ils le confit de canard? À ne pas confondre bien évidemment avec le conflit de canard, qui est autre chose. Messieurs.
Eh bien, je n'ai aucune source pour affirmer ma réponse, donc je m'abstiendrai sur cette question.
C'est vraiment con que je n'aille pas à Monza, parce que j'aurais posé la question aux pilotes. Écoute, Sébastien.
À mon avis, un pilote comme Grosjean, qui a pas la réputation d'être fin gourmet, doit apprécier ce genre de choses, non?
Ah, on sait que Montoya apprécie le confit de canard.
Oui, il apprécie tous les plats possibles sur la planète. Hein.
Oui, tout ce qui est confit.
Sur son hamburger, qui le met. Hein.
Vous ne pensez en pas fait... que Ricciardo pourrait pas se faire un bon confit de canard, quand même, pour fêter sa nomination chez Red Bull? C'est quand même un plat un peu délicat, un peu luxueux.
Alors le confit de canard, sincèrement, je vais être sérieux 30 secondes, le confit de canard en samosa, c'est une tuerie. Je l'ai fait une fois, c'est trop bon. C'est mon petit conseil cuisine de la semaine.
Sinon, nous avons rien d'autre à rajouter sur le confit de canard?
Bah sinon, il y a quelqu'un sur le chat qui suggère à Julien Febro de poser la question. Donc si Julien Febro nous écoute,
oui,
on a une question pour le Grand Prix de Monza.
Voilà, un truc original.
C'est dans Canal Plus, on a alors Jacques Villeneuve. Petite question pendant ces essais libres. Est-ce que vous aimez le confit de canard?
Voilà, c'est le défi SAV.
Et donc, troisième question. Et là, par contre, il va y avoir un peu plus de débat. Une question de Bruno. Bonjour à tous. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, comment un ancien champion du monde de Formule 1 comme Jacques Villeneuve peut dire autant de bêtises? Et je suis poli, durant un Grand Prix. Attention, la question n'est pas terminée. Il donne son avis. Son collègue n'arrête pas de le reprendre et ses remarques sont pour la plupart du temps abusives, inexactes et pour tout dire débiles. Je rappelle qu'on parle de Jacques Villeneuve, hein, pas de Dino. Pourquoi être aussi aigri? Ce comportement confirme ce que tout le monde pense. Jacques Villeneuve n'a jamais été un grand pilote de Formule 1 et n'a rien à faire sur une antenne de TV en tant que commentateur. Canal a révolutionné la F1, mais est plutôt en train de dégoûter le téléspectateur. Entre les commentaires inaudibles et des remarques minables, Canal devrait revoir sa copie et réagir. Dommage. Il ne faudrait tout de même pas que l'on en vienne à regretter les retransmissions sur TF1. Bon courage.
Comment prendre cette question par un bout? Déjà, peut-être éviter de la poser de cette manière, parce que ça présuppose un peu qu'on soit de cet avis, alors que c'est pas forcément le cas. Je crois pas que qui que ce soit dans l'émission ait émis une opinion en ce sens. Vous me corrigez si je me trompe, mais je sais pas. Moi, je comprends pas cette cabale un peu qu'il y a autour de Jacques Villeneuve. Il fait que son boulot. Alors, il donne son avis. Peut-être le seul truc qu'on puisse le reprocher, c'est peut-être d'être un peu répétitif dans ce qu'il dit. Mais en même temps, c'est son boulot en tant que consultant de donner son avis sur ce qu'il voit. Et si son avis, c'est que les courses sont pas passionnantes à cause du DRS, etc., etc. Bah, c'est son boulot de le dire. Après, quand on a quelqu'un comme Jacques Lafitte qui est quelqu'un
qui a rien fait.
Voilà, c'est ça. Il était un peu là, mais on n'a jamais vraiment su ce qu'il pensait, à part que c'était mieux avant parce que c'est un pilote des années 70.
Je corrige
là,
parce que
là, pour ça, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu pareil, Jacques Villeneuve. C'était mieux avant, surtout quand il y était.
Ouais, mais Jacques Lafitte, on n'entendait pas beaucoup, en fait. Et oui. Il commentait plus la course que Villeneuve, qui essayait d'interpréter une situation pour la remettre dans son contexte. Oui. Il est peut-être sûrement un niveau au-dessus de Jacques Lafitte dans son analyse, alors que Jacques Lafitte était en train sur l'analyse de l'instant, quoi.
Alors, je faisais il y a quelques secondes la remarque sur Jacques Lafitte en disant qu'il n'avait rien fait. Je pensais t'avoir entendu dire Jacques Villeneuve, parce que c'est ce qui me dérange dans cette question, c'est cet argument qui consiste à dire qu'est-ce qu'il a fait en Formule 1. Mais la question, elle n'est pas là. C'est dans ce cas-là, sinon pourquoi vous commentez sur la Formule 1? Qu'est-ce que vous avez à faire Formule 1 pour pouvoir mériter un jour de juger quelqu'un comme Jacques Villeneuve qui a été champion? Si lui n'a pas de crédibilité pour parler de la Formule 1, quelle crédibilité vous avez pour parler de Jacques Villeneuve? Cet argument qui consiste, et je le dis d'autant plus que ça a été mon cas.
On dit nous aussi, hein, tout le monde. Hein, ici.
Cet argument qui consiste à débiner les gens juste en disant il est pas compétent, il a pas autorité à dire ça. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que quelqu'un n'a pas autorité à dire ça? Qu'il soit champion du monde, qu'il soit modeste animateur ou co-animateur d'un podcast, qu'il soit juste commentateur, qu'est-ce qui vous permet de dire que quelqu'un n'a pas le droit de s'exprimer? La comparaison, tu disais pour le trait d'humour, je suis obligé de faire un peu la comparaison avec moi. À un moment donné, il faut aussi comprendre que je pense que s'il y a bien un truc sur lequel je comprends Jacques Villeneuve, c'est qu'il en a un peu marre de ces discours un peu entendus, un peu généralistes, un peu plats et un peu fades. Et malheureusement, il faut reconnaître que c'est toujours ce qu'on a un peu le droit ces dernières années. Je suis pas toujours d'accord avec ce que dit Jacques Villeneuve, de la même manière que j'espère bien que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce que moi je dis, mais au moins il a le mérite de poser des questions, de poser des débats, de dire ce qu'il pense, de susciter la polémique, de susciter la discussion et de pas laisser les sujets en suspens. Quand il dit que quelque chose est con, il dit que quelque chose est con et au moins derrière il y a un débat. On s'intéresse à ce qu'il dit. Alors, je trouve que c'est toujours un peu facile de débiner le mec. Moi, je trouve que grâce à lui, on a malgré tout, pas forcément dans les commentaires, et c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire, pas à Jacques Villeneuve, mais à Canal+, c'est que finalement, il manque peut-être une troisième personne pour répondre à Jacques Villeneuve, parce que Febro essaye de le faire, mais en même temps, il est aussi là pour commenter. C'est un peu plus difficile. Je pense qu'il faudrait peut-être un deuxième consultant qui puisse répondre et qui ait un peu du débat entre guillemets pendant notamment les essais libres et compagnie où c'est là où on entend le plus Jacques Villeneuve. Mais en dehors de ça, je trouve les commentaires vivants, intéressants, qui suscitent la polémique et puis qu'on accorde du crédit ou pas à Jacques Villeneuve, ça reste quand même quelqu'un qui a été champion du monde, qui a fait de la Formule 1 il n'y a pas encore si longtemps que ça, et ça nous change de Jacques Lafitte qui, bien que très grand pilote de Formule 1, commence à dater un petit peu et n'est peut-être plus forcément au goût du jour sur certaines questions. Il a quand même touché à plusieurs sports. C'est quand même le fils d'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, en tout cas en termes de talent, d'un des plus talentueux. Il a quand même été pas forcément éduqué par son père, mais vécu dans un milieu, il a grandi dans la Formule 1. Je pense qu'il y a des consultants aujourd'hui sur la planète F1 qui sont bien moins légitimes. Si on discrédite Villeneuve parce qu'il a été que champion du monde, qu'est-ce qu'on dit de Buemi? Qu'est-ce qu'on dit d'Ambrosio? Qu'est-ce qu'on dit de Davidson? Qu'est-ce qu'on dit de Franck Montagny? Enfin, voilà. Moi, je trouve que critiquons-le sur ce qu'il dit. Répondons-lui sur ce qu'il dit. Même si on trouve qu'il dit des conneries, répondons à ses conneries. Mais arrêtons de débiner le mec juste en disant, bah ouais, ce qu'il dit, c'est des conneries. Il mérite même pas qu'on lui réponde. Ou de dire, il a aucune autorité ou aucune validité pour répondre. Et vous, vous avez laquelle? Par contre, là où il a raison, c'est qu'il va vraiment falloir que Canal+, à un moment donné, écoute les retransmissions des Grands Prix, oui. Parce que le niveau sonore est vraiment pas bon. C'est bien d'acheter la Formule 1, maintenant, il faudrait quand même qu'il fasse un peu le point pour voir ce qui cloche, parce que je trouve que autant il y a de la progression, par exemple dans les commentaires, Julien Febraud, je trouve qu'il a progressé, c'est qu'à une époque il parlait pas mal sur les caméras embarquées, depuis il fait un peu moins.
Non, puis sur le duo, faut pas oublier que comparé à TF1, eux ils avaient 10 ans d'expérience en duo, eux c'est que leur demi-saison.
Oui, voilà.
Voilà. Ça,
le défaut de ce duo, c'est que pour les écouter, il faut payer 25 à 40 euros par mois et que forcément, ça rend le téléspectateur exigeant.
Plus exigeant, c'est normal.
Et c'est vrai que quand tu payes 25 ou 40 euros, tu entre guillemets, tu n'as pas le droit d'apprendre, tu dois être au top. Voilà. Maintenant, voilà, il y a des détails de la part Canal+ qui sont vraiment choquants, qu'ils aient toujours pas réglé ce problème de son. Et ça, c'est un truc qui est juste inadmissible de la part d'une chaîne comme Canal+, qui a une telle crédibilité en notamment sur la retransmission du foot et compagnie, qui est une grande chaîne même européenne dans ce domaine-là. C'est quand même pas normal que sur la Formule 1, ils arrivent pas à trouver le juste milieu ou à équilibrer un peu la balance pour quand on a vraiment en avoir plein les oreilles au départ ou quand ils nous font des caméras embarquées. Ce qui est très bien sur Canal+, c'est qu'on n'avait pas le droit avant, c'est que voilà, on nous laisse savourer un peu ces moments-là et très régulièrement, et puis bah mettre le son un peu plus en sourdine quand il y a des discussions.
Mais c'est vrai que ouais, l'idée peut-être d'un troisième commentateur, ça pourrait être pas mal.
Alors tu changes de consultant à chaque Grand Prix.
Comme les commissaires.
Le problème, c'est que les consultants francophones, ils vont pas être nombreux.
Bah écoutez, ils peuvent nous envoyer un mail à contact@savf1.fr.
J'allais le dire. On est disponible.
Rien d'autre à rajouter sur Jacques Villeneuve?
Non, mais c'est moi ce qui m'a... Jacques Villeneuve, de toute façon, ils l'ont engagé pour ça aussi. Pour ça.
Oui, parce que déjà, gueule. Dans ses propos avant, que... c'était déjà comme ça.
Parce que ils vont dire que c'est pour si on voulait faire de la pub, on dirait que c'est l'esprit Canal, c'est l'esprit un peu. Enfin, il est là pour ça. S'il n'est pas là pour dire tout est beau, tout est gentil.
Mais même c'est un show. Enfin, moi, je sais que quand je fais certaines réactions dans le SAV, j'assure aussi un petit peu le show. Je monte un peu le truc en mayonnaise. Je grossis un peu le trait quand je m'attaque aux fans de Raikkonen. Enfin, voilà, je suis pas con au point de penser sincèrement que tous les fans de Raikkonen sont des béni oui qui ont la bouche en cœur dans leur pilote. Voilà, Shinji, mon meilleur ami, et je sais très bien qu'il y a des fans de Raikkonen qui sont quand même des gens qui ont un peu plus de recul. Maintenant, c'est aussi le show. N'oublions pas quand même qu'on est dans une certaine forme de spectacle, même s'il y a du journalisme et même si au fond il y a du traitement de fond, il y a quand même une part de spectacle, une part de mise en scène qui cherche aussi un petit peu à pimenter les choses.
Très bien, on arrive à la fin de l'émission.
En tout cas, il dit plus McLaren.
Oui.
Ouais, t'as dû écouter le SAV. Il dit toujours Max Chilton ou voilà, Mark Webber.
Max Chilton et Mark Webber.
Et McLaren aussi.
Ah non,
McLaren, il le dit plus.
Il le dit plus.
Écoute un peu cette émission.
Mais non, mais t'étais un peu dans loin, tu vois. Enfin, bref.
Bah, la Belgique,
c'est pour ça.
On vous rappelle, hein, si vous souhaitez poser une question au répondeur, vous avez le choix, soit par écrit sur l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou par le module audio qui, on et vous le rappelle, sert à poser des questions sur le site savf1.fr. On vous rappelle, la semaine prochaine, il y aura le SAV du Grand Prix d'Italie à Monza. Il y a le concours Top à Position, où il y a un magnifique cadeau que je sais plus ce que c'est à gagner, mais c'est quand même un magnifique cadeau.
Ah,
mais
oui, c'est un t-shirt Ferrari. Magnifique t-shirt noir. Et avec, sincèrement, pour avoir cherché la réponse, je trouve l'une des questions les plus intéressantes qu'on ait jamais posées dans le SAV. Parce que pour le coup, je pense que la plupart de nos auditeurs vont apprendre un truc.
À Monza a eu lieu une course réunissant les deux disciplines de monoplace les plus prestigieuses. Quel était le nom officiel de cette course? On vous rappelle, si vous souhaitez participer au SAV d'après-course, dans ce cas-là, l'adresse mail c'est contact@savf1.fr. Est-ce qu'il y a encore des places de libre? Parce qu'on arrive un peu vers la fin de saison.
Alors, l'Italie, on a un candidat dans les tuyaux, normalement. La Corée, il y a du monde. Le Japon, il y a du monde. Mmh. Voilà, donc je crois qu'entre-temps, il y a Singapour et puis il y a la fin de saison. Mais bon, de toute façon, même quoi qu'il arrive, vaut mieux se prendre un revers, vaut mieux tenter sa chance. Faites comme Adelin. Adelin, il tente sa chance, il pose des grands prix. Voilà. Et il connaît les règles, il sait que, voilà, on donne priorité aux nouveaux auditeurs et compagnie, aux gens qui sont pas venus dans la saison. Ça lui est arrivé, par exemple, le cas en Belgique. Il s'était porté candidat dès le mois de mars, je crois. Voilà. Après, il a cédé sa place parce qu'il y avait un nouveau candidat. Donc, voilà. Même s'il y a un candidat, n'hésitez pas à postuler, si c'est pas pour un grand prix. Voilà, il y aura d'autres opportunités, puis au moins vous vous faites connaître et on se rappelle de vous.
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1, et c'est aussi en live sur le site SAVF1.fr.
C'est, oui, enfin, c'est en live pour le moment.
Pour le moment.
Profitons-en d'ailleurs pour remercier tous nos auditeurs et nos auditrices qui participent à cette expérimentation. Voilà, qu'ils soient anonymes ou qu'ils aient un identifiant et qu'on puisse savoir qu'ils étaient là et les remercier en leur envoyant le petit chèque qu'on leur a promis dans le mail d'invitation. mais voilà, les remercier de participer à cette expérimentation parce que c'est vraiment une expérimentation en espérant avoir leur retour et puis avoir vous aussi, auditeurs qui nous écoutez et qui n'avez pas pu nous écouter en live, avoir vos retours sur cette émission live qui sera quasiment pas coupée. On va juste un peu la comment dire,
élaguer
le début, la fin, les pauses pipi et puis certains détails, mais sinon vous aurez vraiment un SAV pur jus et nous donner vos retours sur cette émission dans les commentaires sur FanF1 ou par mail à contact@savf1.fr.
On vous rappelle que la F1 sur internet, c'est sur
fanf1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
C'est en live.
En direct.
C'est gratuit, c'est en live, c'est le Ritz des podcasts, c'est plein de trucs.
C'est en couleur.
Ouais, enfin la page est un peu grise, la page du live. Ouais.
Oui. Ah d'ailleurs, profitons-en pour la page. Je tiens à remercier Gus Gus qui, parce que le site du SAV est en mort, et il a dû créer une page spécifique. Et donc il a créé une page spécifique dans des délais très courts. Il a été très réactif. Il a répondu à toutes nos exigences. On voulait qu'il y ait un lecteur, il nous a mis un lecteur. Il voulait qu'il y ait un chat, il a mis un chat. Il voulait qu'il y ait un logo, il a mis un logo. Voilà. Merci Gus Gus.
Un peu perdu en haut de la page, il a mis le écouter.
Ah, il y a écouté.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, pour rappeler aux gens. Oh les gars, écoutez hein.
Ça va pas se passer comme ça.
C'est son côté maître d'école.
Allez, on se quitte. Vous avez un dernier mot à dire?
On peut peut-être profiter qu'on a des auditeurs pour savoir s'ils ont une question.
Oui, c'est vrai, profitez-en.
Profitez-en, il y a pas besoin du répondeur. Là, si vous avez une question, bon.
On a combien d'émissions là, parce que.
On doit avoir dépassé les 100.
Ah non, je parle de durée. Pardon.
De durée.
Oui. Oh, ça va.
On est à 2h20.
Ce qui est pas.
C'est pas dégueu.
Ça va, franchement, par rapport à ce qu'on a connu.
C'est clair. Alors, on a Globel qui nous demande si sur la page du site, ou sur le fond du live, si on voulait une sobère ou si c'était une erreur. Ça, rassure-toi, Globel, c'est une erreur.
Non. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le jour où ils ont montré la sobère, vous vous êtes dit, ah oh, bah tiens, elle est grise, la sobère. Et nous, on s'est dit, oh putain, ils ont fait une voiture aux couleurs du SAV de la F1. Donc on s'est dit, bah, quitte à mettre une bagnole, autant mettre celle aux couleurs du SAV.
Il y a des demandes en mariage, légales oui, désormais.
Que je vais refuser directement, désolé. Merci Globen de ta sollicitude.
Oasis demande si on s'est inspiré du concept de l'apéro du capitaine, qui est aussi un podcast, qui font aussi des lives.
Comment te dire, ce n'est qu'en 2012 qu'on s'est rendu compte qu'on faisait un podcast. Et voilà, il faut dire que quand on a commencé, j'ai dit tiens, si on s'est enregistré, ce qui est, je pense, la base de tout podcast. Avant tout, c'est l'envie entre amis de discuter. Je l'ai fait seul 2 émissions, on a vite arrêté. mais voilà, c'est après oui, on a tous, que ce soit la période du Captain ou les autres podcasts, ils sont très nombreux et enfin, je pourrais pas les citer. mais on a tous cet ADN au début, c'est de vouloir parler ensemble. Après, voilà, c'est un peu le même concept.
Après, c'est le podcast, quoi. Si on l'a pas fait plus tôt, c'est aussi parce que nous, on a une espèce de difficulté, c'est que souvent les autres, quand ils font des lives, ils sont tous ensemble autour d'une table. Et nous, voilà, il y en a en Normandie, il y en a du côté de Lyon, il y en a en Picardie, il y en a du côté de Bordeaux. C'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue technique.
Mais en Belgique aussi, n'oublie pas les minorités, s'il te plaît.
La Belgique.
Est-ce que le SAV, c'est comme un canal, c'est-à-dire cocaïne à volonté? Non, mais c'est Choupa Choups à volonté.
Oui, c'est aussi Coke, mais Coca-Cola à volonté.
Voilà. J'en ai pas vu la couleur, ni l'un ni l'autre.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est pour les patrons.
Ah, dommage.
C'est avec les slips.
Le MEDEF a de beaux jours devant lui.
On fait aussi de la rétention de slip, mais ça, c'est une autre histoire.
Libérez le slip! Libérez le slip!
Oui, il est le temps, hein. En plus,
nous interrompons ce podcast pour, nous interrompons ce podcast pour revendiquer la libération du slip de Fab, qui est retenu depuis 267 jours en Normandie.
Non, il est dans l'Aisne.
C'est pas possible. C'est Jean qui interrompt le slip déjà.
Et avouez qu'un slip, c'est quand même mieux dans l'Aisne.
L'Aisne, c'est quand même mieux dans le slip.
Steph Core, devinez quoi? Vient de nous faire une Steph Core.
Oui, Steph Core vient de découvrir que ça marchait pas sur son téléphone portable, mais que ça marchait sur son ordinateur. Ça arrive au bon moment, Steph Core, puisque c'est la fin. C'est le moment du mot de la fin. Alors, messieurs, est-ce que vous avez un mot de la fin?
Mon mot de la fin sera une dédicace. Une dédicace à Monsieur Ortelli de l'AFP. Et mon mot de la fin sera Murp.
C'est une dédicace.
Eh bien, moi aussi, je dédicace mon mot de la fin à Steph Core et mon mot de la fin sera silence.
J'ai dit
merci, tout simplement, merci.
Voilà, j'ai dit, on lui demande un mot de la fin, et il nous fait une phrase.
J'ai non, dit,
il a inventé la rubrique du mot de la fin, mais derrière, il a inventé une sous-rubrique qui s'appelle la phrase de la fin.
Et toi, ton mot de la fin?
Monza.
Ah, allez, ciao à tous, et bonne course.
Salut.
Ciao, ciao.
Salut.